Ce message s'intitule Questions et réponses numéro 3.
And so forth to the teaching, you'll find out you'll be different one from another. Because you're different. Your makeup different. Your appetites are different. You eat different. But you all eat food. But now, just from one individual being just like the other, you're different one from another. Christians do the same thing. You can't say, now...
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
Them that believe. Notice, in my name they shall cast out devils. They shall take up serpents or drink deadly things, and they'll speak with new tongues. And them things just actually follow Christians. Now the person has a very good thing here. Or do we wait until the future time or the conditions appointed by the Holy Spirit? I like that.
Amen.
See?
Amen.
Now you get the idea? When it's appointed by the Holy Spirit.
Amen.
God appoints things. And there, I think if the Pentecostal people would try and listen to this tape, you'll understand me if you get here why I'm different with you pressing that idea that they must all speak with tongues. I cannot see that right.
Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce matin de l'occasion que nous est donnée de venir en ta présence et d'avoir ces instants de communion fraternelle. Et de nous trouver ici dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous te prions de rester avec nous pendant que nous parlons de toi. Puisse nos cœurs être pleins de joie alors que nous regardons à ta parole et à tes promesses à notre égard. Bénis notre pasteur, nos frères associés et tous les frères et sœurs qui viennent ici pour nous rencontrer et se réunir dans ce petit endroit que nous avons désigné comme lieu de rencontre pour toi. Et nous te prions de nous bénir dans tout ce que nous ferons aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Ceci est en quelque sorte un petit soulagement pour moi. Je viens d'avoir ici des entrevues. Je devais avoir des entrevues ou bien m'occuper des questions et répondre. Pratiquement, pour chaque cas ce matin, j'ai eu une vision. Et j'ai dit à Billy que si frère Neville n'était pas trop occupé, je prendrais cette pile de questions et viendrais vite ici pour soulager un peu mon esprit. Ces visions m'épuisent assez. Mais les gens ont été aidés. C'est le principal. L'essentiel, c'est qu'ils aient été aidés. C'est le côté positif. Ainsi donc, je vais les prendre un peu plus tôt cet après-midi, afin de pouvoir commencer ce que j'ai de spécial cet après-midi, c'est-à-dire les entrevues. Maintenant, nous sommes heureux ce matin de voir nos amis et... N'en veuillez pas, Billy, à cause de ceci. Il était censé aviser les gens si j'avais l'intention de continuer à répondre à ces questions. J'ai pensé que ça me donnerait une heure environ pour répondre aux questions. Certains de mes... Je n'aime pas partir, j'aime bien faire table rase, voyez-vous, après ces questions, et ainsi de suite. J'aimerais pouvoir dire que j'ai terminé avec ceci. J'ai trop de choses dans la tête, cela me rend nerveux, et je ne veux pas être nerveux au sujet de quoi que ce soit. Je vais m'en aller dans la gloire un de ces jours. Un de mes vieux amis me disait, il y a quelques jours, « Je deviens si las de vivre du seul contenu d'une valise. » Je lui ai dit, « Cher frère, je désire te demander quelque chose, et je veux te dire quelque chose. J'ai le mal du pays. Cela fait 20 ans que j'ai le mal du pays, et je n'ai pas de chez moi où aller. » Voyez-vous, c'est vrai, c'est terrible de le dire. Je pourrais m'asseoir quelque part et pleurer pour avoir un chez moi quelque part où aller. Je n'ai aucun endroit où aller. Où que j'aille, je ne peux y rester que quelques jours. Je suis prêt à aller ailleurs. Je pense que j'ai toujours été ainsi. Je suis né ainsi. Ma femme m'appelle « Vent sans repos ». Je vais juste ici et là. Et c'est se trouver dans une situation épouvantable. Mais je pense que je devais être ainsi pour mon ministère. Mais beaucoup d'entre vous admirent le... Ou bien nous désirons faire n'importe quoi pour Dieu. Mais ne... Maintenant, nous sommes juste quelques personnes d'ici ce matin, voyez-vous. Mais moi, j'ai le mal du pays. Je veux rentrer à la maison et je ne sais où aller. Vous dites, et si vous alliez en Arizona, puisque votre famille est là-bas? Je me sens très bien 2 ou 3 jours, puis je dois m'en aller ailleurs. Et je vais ailleurs, et alors, je me sens très bien 2 ou 3 jours. Il faut que je m'en aille encore ailleurs. Ainsi, je n'ai aucun endroit où aller, et j'ai le mal du pays. Eh bien, il existe un pays. J'irai dans ce pays-là un jour, mais il faut que je vous aide premièrement. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pour vous aider. Et d'ici là, lorsque je ne pourrai plus vous aider, alors j'aurai envie de rentrer à la maison. À ce moment-là, je voudrais réellement rentrer à la maison. Mais il existe quelque part un endroit que je vais tant aimer que je ne voudrais pas revenir. Par exemple, je quitte Jeffersonville, je m'absente pour quelques semaines, je désire revenir. Je vais en Arizona, je pense que c'est merveilleux, je désire revenir. Je vais ailleurs, je désire revenir. Et je vais ici et là, et puis je pense que je désire venir ici. J'arrive ici, je suis ici juste pour quelques jours, et je vous vois tous, je désire aller ailleurs. Vous voyez-vous, mes enfants sont dispersés dans le monde entier, ceux que j'ai engendrés pour Christ. Alors je n'ai aucun chez moi. Je désire les rassembler tous un de ces jours, voyez-vous, si le Père le veut. Et alors, nous aurons une demeure où nous n'aurons plus à errer. Voyez-vous, je suis fatigué d'errer et de n'avoir aucun endroit où rester. Et je conseillerais à n'importe qui de ne jamais être une pierre qui roule. Voyez-vous, à moins que ce soit un ministère qui vous appelle à être ainsi. Parce que je donnerais n'importe quoi ce matin pour avoir un endroit ici sur terre où je puisse aller dire « Je suis ici chez moi ». Si je les avais, je donnerais 1 million de dollars pour avoir cela. Pour avoir un endroit où je puisse dire, oh, j'aime tant cet endroit, je ne veux plus jamais le quitter. Je donnerais n'importe quoi, mais je ne puis le trouver. Je suis un peu comme Abraham, je cherche une cité, voyez-vous, je ne puis la trouver, mais je sais qu'elle existe. Mais je ne puis vraiment m'habituer à aucun endroit sur cette terre. Il ne semble tout simplement pas... Il y a de braves gens, de beaux endroits, et vous allez ici, il fait trop humide, vous allez là-bas, il fait trop sec, vous montez ici, il fait trop froid, vous descendez là-bas, il fait trop chaud, voyez-vous, il n'y a aucun endroit. Cela n'est simplement pas chez soi. Je ne veux pas passer mon temps à pleurer sur votre épaule, mais je suis... Eh bien, nous remercions le Seigneur. Amen. Soyez reconnaissants pour toutes choses. Je suis ainsi parce que je suis ainsi. Dieu m'a fait ce que je suis, et je ne puis être rien d'autre que ce qu'il m'a fait. Mélancolique, et de ce genre-là. On me dit que je dois être ainsi pour être ici-bas l'aide qu'il veut que je sois. Et je désire être ce genre de personne. Si c'est ainsi que j'étais censé être, c'est ce que je désire être. Quelle que soit la volonté du royaume de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est ce que je désire être. Maintenant, prions encore. Seigneur Jésus, ces questions sont ici devant nous, Père. Je ne puis y répondre, Seigneur. Je suis incapable de répondre à ces questions, mais je sais que tu es parfaitement capable. Pensez sur le cœur des gens. Utilise-moi, Seigneur, pour soulager leur angoisse, s'il te plaît, Père. Je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons commencer par... Je pense qu'on n'enregistre pas ceci. Ainsi, c'est juste un... C'est un an, je suppose. La chose qui... La raison pour laquelle je suis en souci au sujet de ces questions, c'est qu'il y a toujours une chose originale, ou plutôt délicate, qui m'ennuie. C'est de répondre aux questions sur mariage et divorce. Oh là là, les appels téléphoniques, les lettres, et un frère s'est enroulé dans une couverture et s'est assis sous mon porche de minuit jusqu'au lever du soleil, le matin suivant. Des pasteurs qui appellent de partout, ayant été mariés 2 ou 3 fois, et ainsi de suite. Des ministères... Je désire vous demander une chose. J'ai encore plusieurs de ces questions ici, je sais. Je ne les ai pas toutes regardées, mais il y en a encore plusieurs ici. Souvenez-vous simplement de ceci. Pour vous qui êtes mariés, divorcés et remariés, promettez-moi une chose, voyez-vous. Vous avez mis votre confiance en moi. Je pense que ceci n'est pas enregistré. Vous me croyez en tant que votre prophète, envoyé de Dieu, votre serviteur. Alors acceptez ce que je dis à ce sujet. D'accord ? Continuez simplement à vivre tel que vous êtes. N'essayez surtout pas de faire quoi que ce soit d'autre, mais vivez, allez simplement de l'avant, soyez simplement heureux. Vous êtes sauvés. Si vous êtes des chrétiens, allez de l'avant en vivant pour Christ. Il avait une raison pour vous sauver. Maintenant, lorsque je reviendrai, Dieu voulant, je vous expliquerai cela dans la Bible, voyez-vous. Et ne soyez pas bouleversés. Beaucoup d'hommes m'ont dit, « Eh bien, j'aime ma femme, mais je vais devoir la quitter. Je ne veux pas manquer l'enlèvement. » Ne faites surtout pas cela. Restez simplement comme vous êtes, jusqu'à ce que vous m'entendiez à nouveau parler de ce sujet. Puis lorsque je ne peux pas l'expliquer en 10 ou 15 minutes, cela prendra un certain temps pour l'expliquer, parce que cela doit être l'écriture, cela doit être ainsi dit le Seigneur, sinon ce n'est pas juste. Je connais ces questions dont Jésus parle ici. Si un homme répudie sa femme et en marie une autre, sauf pour cause de fornication, comme un adultère. Quiconque marie celle qui est répudiée vit dans l'adultère. Il avait une bonne raison de dire ces choses. Il était Dieu, c'est sa parole. Maintenant, revenons au commencement pour découvrir ce que tout cela veut dire. Voyez-vous, nous apporterons cela ensuite. Mais en attendant que nous le fassions, continuez simplement comme vous êtes maintenant, comme vous avez toujours fait, si vous êtes des chrétiens. Si vous êtes un couple chrétien et que vous soyez marié et avez des enfants, etc., que quelques petits liens vous unissent, ne quittez pas votre femme ou votre mari maintenant. Ne faites pas cela. Voyez-vous, attendez jusqu'à ce que vous m'entendiez à nouveau parler du sujet. Voulez-vous me le promettre? Levez la main. Maintenant, vous avez mis votre confiance en moi. Maintenant, vous m'avez cru jusqu'ici. Alors, croyez-moi encore un petit peu plus à ce sujet. Maintenant, voyons. J'en ai d'excellentes ici ce matin. Tous ceux qui font partie de l'épouse doivent-ils habiter dans un rayon inférieur à 2200 km du tabernacle? Je crois avoir déjà eu cette question dimanche dernier. Je vais simplement les prendre et répondre comme je peux. 2200 km du tabernacle, comme cela, semble ressortir de la bande numéro 2 de la demeure future de l'épouse. J'ai toujours pensé que l'épouse sortirait de toutes les parties du monde au moment de l'enlèvement. Suis-je dans l'erreur? Non, mon cher ami, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous avez raison. Maintenant, si j'ai dit quoi que ce soit sur la bande qui puisse vous faire croire que... Or, je n'ai pas... Ces questions ici sont toutes nouvelles pour moi. Je ne les ai jamais regardées. Vous voyez, c'est une nouvelle série que j'ai eu dimanche dernier et je les ai remises dans cette enveloppe et les ai replacées là-dedans. Maintenant, dans ceci, non, l'épouse n'a pas à être à un certain endroit. Beaucoup seront de la poussière de la terre. Ils seront autour du monde. Ils seront gelés dans la neige du nord et d'autres seront dans la poussière de la jungle tropicale et tout autour du monde. Mais lorsque la trompette de Dieu retentira, les morts au Christ ressusciteront, se réveilleront et sortiront de la poussière, peu importe où ils sont. Et maintenant, ceci, la résurrection sera universelle. Voyez-vous, partout, toute créature sur la surface de la terre qui est en Christ sortira avec lui lorsqu'il viendra. Voyez-vous, peu importe où vous êtes, pensez simplement aux arènes du temps des premiers martyrs. Lorsque ces chrétiens furent jetés dans la fosse aux lions et que ceux-ci les tuèrent et dévorèrent leur corps, voyez-vous, bien que leur reste ait été dispersé sur la surface de la terre, leur corps se trouvant dans les excréments des lions, peu importe où ils sont, vous ne pouvez pas, voyez-vous, vous êtes fait d'une substance qui est constituée de matière invisible, et Dieu redonnera cette substance, voyez-vous. Maintenant, c'est comme lorsque vous prenez une cellule. Si vous partagez cette cellule, cela devient une cellule d'une cellule, puis un atome, une molécule, et ainsi de suite. Et finalement, ça se termine dans l'invisible. Cela va du naturel, de quelque chose que vous pouvez toucher au gaz, des gaz aux acides, des acides aux gaz, et ainsi de suite, des gaz jusqu'à ce que finalement tout se concentre en une petite chose qui est esprit. Et cet esprit qui a occupé ces gaz, il se peut que ce ne soient pas les mêmes gaz, mais vos caractéristiques se retrouveront exactement.
Amen.
Voyez-vous, l'esprit a contrôlé cela. Et maintenant, en d'autres termes, lorsque vous devenez un jeune homme ou une jeune femme, Dieu prend une photo de vous. Maintenant, peu importe que vous soyez vieux, ridé, défiguré ou quoi que ce soit d'autre, tout se déroulera comme prévu jusqu'au bout. Et ce corps peut être détruit, défiguré, brûlé, dévoré par les lions, n'importe quoi, mais il a été composé de gaz, de 16 éléments de la terre. C'était du calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière cosmique et ainsi de suite. Tous s'harmonisent pour former le corps. Maintenant, peu importe, la terre entière en est remplie. Mais maintenant, cette photo est la chose principale. Alors, à la résurrection, ces gaz, acides et autres choses reviennent exactement en place et développent à nouveau cette photo. Or, cette photo n'a pas été prise lorsque vous aviez 16, 18 ou 20 ans, alors vous étiez dans la meilleure forme. Quand fut-elle prise? Avant qu'il y eut une fondation du monde. Elle fut placée dans le grand fichier de Dieu. Et ensuite, la seule chose qu'elle fit, ce fut de se matérialiser ici afin que vous fassiez votre choix. Voyez-vous, alors vous êtes devenu un serviteur de Dieu. Lui, connaissant cela d'avance, fait de lui un rédempteur, comme nous l'avons vu. Alors cette photo est absolument, ceci est le négatif. La partie négative de la vie est là où vous vivez maintenant. Et pour toute chose, s'il y a un négatif, il doit y avoir un positif avant qu'il puisse y avoir un négatif. C'est pourquoi si ceci est un négatif, il doit y avoir un positif quelque part. Et ceci n'est pas la chose véritable. Ceci n'est qu'une préfiguration de la chose véritable qui doit venir. Maintenant, avez-vous saisi? Ainsi, peu m'importe ce qu'on pourrait faire de vous, on ne peut pas détruire ce profil, cette photo dans la grande galerie de Dieu là-haut. On ne peut pas la détruire, car elle est au ciel. Vous pourriez la brûler, la donner à manger au lion, la traiter n'importe comment, elle reviendra aussi sûre que 2 et 2 font 4, aussi sûre que Dieu l'a dit, elle apparaîtra. Ainsi, peu importe où vous êtes. Maintenant, si je pense qu'il faut vous passer la bande, je ne sais pas qui a écrit cela. Il n'y a aucune signature, seulement un petit morceau de papier écrit à l'encre bleue, tiré d'un petit carnet de notes. Mais souvenez-vous, au sujet de ceci, à propos de cette question maintenant, sur la bande, si vous remarquez, j'ai dit ceci, quelque chose à ce propos. Il se peut que ce ne soit pas du mot à mot, si vous comparez cette bande avec l'autre. Mais j'ai dit, par exemple, nous sommes ici ce matin. Cette cité que nous désirons ardemment voir aura environ 2200 km au carré. J'ai dit, cela s'étendrait du Maine à la Floride et de la côte est jusqu'à 1200 km à l'ouest du fleuve Mississippi. 2200 km au carré. J'ai dit, pensez-y, ici même ce matin, il y a des gens qui viennent effectivement d'aussi loin, d'une distance de 2200 km au carré. Ils sont assis ici. Maintenant, je ne sais pas où sera situé le temple sur la terre, mais à mon avis, le temple sera situé à peu près sur l'emplacement actuel de la Palestine. À cet endroit même se trouvera probablement le sommet de la montagne. Celle-ci s'étendra, bien entendu, il n'y aura plus de mer à ce moment-là. Voyez-vous, ce monde a 35 000 km de circonférence, mais 2200 km au carré ne représente pas grand-chose de cela. Mais cette grande cité se trouvera sous cette montagne de 2200 km au carré. Maintenant, la raison pour laquelle je crois cela, c'est à cause des prophéties et des choses qui concernent le mont Sion à Jérusalem et ces villes-là. Et c'est là qu'Abraham, le prophète, cherchait cette cité. Et c'était celle dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il chercha cette cité dans ce pays-là. Je crois qu'elle sera là où se trouve ce pays. Ce pays-là, vous le trouvez difficilement sur la carte. C'est un tout petit point. Et regardez la surface que la Russie, les États-Unis, l'Amérique du Sud et tous ces endroits-là. Pourquoi Dieu veut-il s'y attacher à cet endroit? Voyez-vous, à cet endroit-là, c'est la question. Je ne peux pas le prouver, mais ça me semble bien ainsi. Mais où que ce soit, nous nous dirigeons vers cela. Ainsi, gloire à Dieu pour cela. Maintenant, si vous avez l'impression que j'ai dit que cela serait dans un rayon de 2200 km du tabernacle, c'est une fausse impression, voyez, car il ne sera pas ainsi. Ce tabernacle-là, c'est qu'un tout petit endroit qui va être détruit, et le monde sera consumé, et ceci disparaîtra complètement. Et c'est Indiana, et les États-Unis, et tout se dissoudra, et sera réduit à l'état de lave. Voyez-vous, tout péché, toute maladie, tout germe, et tout le reste seront détruits. Puis je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre, car le premier, pensez-y, Dieu a mis 6000 ans pour construire ce monde, pour l'assembler, le former. Comment le fait-il? La Bible dit, il l'a fait de choses qui ne paraissaient pas. C'est-à-dire qu'il créa la terre. Maintenant, remarquez, ceci est magnifique. Le Créateur même, qui créa la terre dans un but, Satan l'a souillé, est descendu pour racheter ce qui restait ici-bas. Et il est parti ailleurs. Et il est encore occupé à créer. Donc, cela lui a pris 6000 ans pour créer la terre. Elle va prendre 2 jours pour créer la cité qui va venir sur la terre.
Amen.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, construire une cité d'or transparent et aux rues d'or. Quel endroit magnifique! Où trouvera-t-il cela? Y a-t-il des matériaux sur les autres planètes, sur la lune et les étoiles, etc.? Il n'en a pas besoin. Il est un créateur. Il est allé construire la cité. Amen. C'est assez bon pour moi. Pas pour vous? C'est bon. Car s'il a construit celle-ci et j'aime celle-ci, qu'est-ce que ce sera lorsqu'il construira la nouvelle? Oh là là, quelle chose merveilleuse! Ainsi, je suis heureux que nous soyons destinés à cette cité. Très bien. Frère Branham, j'aime le Seigneur. Mais depuis l'an dernier, je suis confronté à un problème. Il semble parfois que j'ai presque perdu la raison. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, priez pour moi et pour mon mari. Eh bien, s'il n'y a pas, si cette personne était en entretien privé comme vous qui étiez là ce matin, cela serait révélé. Peu importe ce que c'est, voyez-vous, le Seigneur révélerait ce que c'est. Mais maintenant que je ne sais pas qui vous êtes et que vous n'êtes pas assis ici, il est simplement dit une sœur en Christ. Maintenant, si vous avez fait quelque chose de faux, qui vous tracasse, alors examinez cela avec la Bible et voyez ce que vous devez faire. Mais si vous n'avez rien fait et que vous n'êtes condamné en rien, c'est peut-être vos nerfs, voyez-vous. Cela pourrait être beaucoup de choses qui sont arrivées, peut-être quelques problèmes dans votre vie passée. Il se peut que ce soit ici une femme qui passe par la ménopause. C'est à ce moment-là que tout va mal pour elle, alors qu'il n'y a rien de mal en elle. Cependant, tout va mal pour elle. Elle ne fait simplement, pas simplement semblant, elle sent réellement cela, comme si c'était réel. N'importe quelle personne qui est nerveuse est ainsi. Elle ne soit jamais en désaccord. Et vos maris, pour vos femmes, lorsqu'elles passent par cette période de la vie, si jamais elle était votre chérie, qu'elle le soit précisément à ce moment-là, parce qu'elle a besoin de vous, elle a réellement besoin de votre aide, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, elle a à comprendre. Parlez-lui, prenez-la dans vos bras comme lorsqu'elle était votre chérie, elle devrait l'être encore. Et comprenez-la parce qu'elle passe pour une période où toute sa constitution se modifie. Et vous devez être bon vers elle à ce moment-là. Je pense que c'est là que M. Rockefeller a fait une erreur fatale. Il était aimé de la nation, il aurait probablement été notre prochain président. Mais lorsque sa femme eut sa ménopause, qu'elle commença la ménopause, et qu'il la quitta et épousa sa secrétaire, vous voyez ce qui arriva. Cela montre qu'il y a encore de vrais Américains bien pensants. Maintenant, j'aime M. Goldwater, M. Rockefeller. J'aime M. Goldwater aussi, j'aime tout le monde. Mais je ne voulais pas, certains d'entre vous, certains de mes frères républicains qui sont assis là-bas et qui m'entendent dire cela, remarquez, mais je ne suis pas un politicien, je désire être un chrétien, vous voyez, et ceci n'est pas un endroit pour la politique. Voyez-vous, de toute façon, la chose entière est passée de cette manière, mais ce dont nous parlons est éternel. Démocrate ou républicain, oh, c'est un réel gâchis. Cela ne pourra jamais être acheté, c'est terminé. Ainsi, n'argumentez pas là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est de vivre pour ce royaume, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous en cherchons une à venir. Amen, c'est vrai. Oui, monsieur. Ainsi, la politique est d'un côté de la barrière et je suis de l'autre. Je dis, j'ai voté une fois, c'était pour Christ. Je suis certain de gagner, c'est vrai. Voyez-vous, vous allez devoir voter. Voyez-vous, Dieu a voté pour vous et le diable a voté contre vous. Maintenant, l'attribution de votre suffrage va déterminer votre orientation. Ainsi, maintenant, je crois que cette personne est simplement... Je vais penser qu'elle est simplement nerveuse. S'il n'y a rien qui vous condamne, continuez votre chemin et dites simplement, « Arrière de moi, Satan !» Continuez simplement votre chemin. Allez-y et vivez pour Dieu.
Amen.
Maintenant, y a-t-il une situation dans laquelle... il soit permis de se remarier après le divorce. D'après, maintenant je vais voir si ceci est une, je pense qu'il y a deux ou trois questions là-dessus. D'après les Écritures, si je ne demeure pas marié des fois précédentes, y a-t-il un motif de divorce qui vous permette même de vous remarier? Je vais acheter la bande, oui. Pour recevoir cette réponse, merci beaucoup, je l'attendrai dimanche. Eh bien maintenant, j'ai dit ceci, vous voyez, permettez-moi de laisser cela de côté, voyez, jusqu'à ce que nous arrivions au point où tout ceci sera mis en ordre. Et souvenez-vous simplement, ce sera Dieu voulant, aussitôt que je serai revenu. La prochaine fois que je viendrai, Dieu voulant, je prêcherai sur ce sujet-là, voyez-vous. Et alors, nous l'enregistrerons de toute façon. Et si cela fait mal, qu'il en soit ainsi. Si cela apporte un éclaircissement, qu'il en soit ainsi. Mais prenez simplement courage, voyez-vous. Cher frère Branham, est-il possible pour quelqu'un d'avoir le baptême du Saint-Esprit et de ne pas avoir les signes qui suivent? Du moins, pas avant un certain temps et pas avant que les conditions fixées par l'Esprit soient remplies. Maintenant, cela peut paraître embrouillé, mais c'est une bonne question, une très bonne, voyez-vous. Ici, cela me donne une petite occasion pour montrer ce qui est en train de se passer avec ma famille ici maintenant, voyez-vous. Je veux dire vous qui êtes ma famille, et la famille à l'extérieur dans le monde, là où vont nos bandes. Maintenant, une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes, parce que la Pentecôte est le dernier message que nous ayons parmi les rangs dénominationnels. Et quant à moi, je suis certainement d'accord avec eux plus qu'avec n'importe quelle autre église dénominationnelle. Je penche vers le pentecôtisme parce que c'est le dernier message. Et tous les convertis que j'amène à Christ, j'essaie de les diriger vers une église pentecôtiste. Mais je les ai condamnés par tous les moyens que j'ai trouvés, montrant qu'ils n'étaient pas en ordre avec l'Écriture, en étant une dénomination et en ne voulant pas marcher dans la lumière lorsque celle-ci leur était présentée. Mais néanmoins, si j'avais à faire mon choix aujourd'hui pour prendre une église dans le monde, je choisirais l'église pentecôtiste parmi les dénominations. Mais en tant qu'individus, hommes et femmes, il y a de véritables chrétiens dans toutes ces dénominations, méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, etc. Mais je parle des systèmes dans lesquels sont ces gens. Jamais de l'individu, mais du système dans lequel les gens se sont fait prendre dans leur dénomination. Est-ce que cela est bien compris maintenant? Voyez-vous, que je pense que les gens, et si ce sont des catholiques romains, des témoins de Jéhovah, des juifs orthodoxes, quoi qu'ils soient, peu m'importe, ce sont des individus pour le salut desquels Christ est mort.
Amen.
Et maintenant, pour ce qui est d'être d'accord avec les systèmes dans lesquels ils sont, je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas, chez les baptistes, que chez les méthodistes, ou les presbytériens, ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont des chrétiens, de véritables croyants. Et même dans l'église catholique romaine, il y a des gens sincères, qui sont de vrais hommes et de vraies femmes, qui aiment le Seigneur, et ne se joignent pas à cette église-là pour être dans l'erreur, mais ils s'y joignent pour faire le bien. Mais c'est le système là-dedans qui dirige leur esprit dans la mauvaise direction. Et si jamais un jour il arrivait que je fasse une dénomination, c'est que je vous aurais trompé et que je vous aurais amené dans un système. Loin de moi cette pensée. Et que Dieu me garde dans mon bon sens pour vous diriger vers Jésus-Christ, la parole. Restez avec elle, voyez-vous. Mais maintenant, cette personne ici demande s'il est possible d'avoir le baptême du Saint-Esprit sans être accompagné des signes. Maintenant, cela, si vous êtes né de nouveau, si vous naissez d'abord en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain normal, maintenant, je réponds ceci d'une façon très enfantine, mais si vous naissez comme un être humain normal, vous ferez effectivement les choses qu'un être humain normal ferait. Est-ce juste? Lorsque vous naissez en tant qu'humain, les traits naturels d'un être humain vous accompagneront. Vous ne vivrez pas dans un arbre et n'essayerez pas de voler de vos ailes comme un oiseau ou quelque chose d'analogue. Ce ne serait pas un être humain normal. Les actions normales d'un être humain. Les actions normales d'un être humain seraient de travailler, de se marier, d'avoir une famille et de faire ces choses. Il s'agit là d'êtres humains naturels, normaux, parce que vous naissez ainsi. Alors que vous naissez comme chrétien, que vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous revêtez naturellement les attributs de Christ. Vous voyez? Maintenant, si nous prenions ce matin les gens de cette assemblée qui viennent ici écouter l'enseignement jour après jour, vous découvririez que vous êtes différents les uns des autres, parce que vous êtes différents, vous êtes faits différemment, vos appétits sont différents, vous mangez différemment, mais vous mangez tous de la nourriture.
Amen.
Mais maintenant, qu'un individu soit tout à fait pareil à un autre, vous êtes différents les uns des autres. Les chrétiens sont la même chose. Vous ne pouvez pas dire maintenant tous partent en langue, tous prophétisent-ils, voyez-vous, vous devez surveiller ces choses, parce qu'un chrétien contracte les habitudes d'un chrétien. Elles vivent comme des chrétiens. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Remarquez, en mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, ou boiront des breuvages mortels, et ils parleront de nouvelles langues. Et ces choses accompagnent effectivement les chrétiens. Or, la personne a une très bonne question ici. Où attendons-nous un certain temps, où que les conditions fixées par l'Esprit soient remplies? J'aime cela, voyez-vous. Maintenant, saisissez-vous l'idée. Lorsque cela est déterminé par le Saint-Esprit, Dieu détermine des choses. Et là, je pense que si les pentecôtistes essayaient, ceux qui écoutent cette bande, vous me comprendriez si vous saisissiez ici pourquoi je suis en désaccord avec vous qui défendez l'idée selon laquelle ils doivent tous parler en langue. Je ne peux pas voir cela ainsi, parce que cela serait, j'aime la tarte aux cerises, mais il n'est pas nécessaire, Et je suis un être humain. Mais il n'est pas besoin d'essayer de vous dire, si vous ne mangez pas de la tarte aux cerises, vous n'êtes pas un être humain. Voyez-vous? Or, manger de la tarte aux cerises n'est qu'une des habitudes d'un être humain. Voyez-vous? Vous pouvez être en désaccord avec moi à ce sujet, mais c'est vrai. Maintenant, l'un mangera ceci et l'autre mangera autre chose. Maintenant, le Saint-Esprit attribue ses fonctions. Mais lorsque vous essayez d'entrer de force là-dedans, si je disais que vous devriez manger de la tarte aux cerises, que pensez si la tarte aux cerises vous faisait vomir? Et cependant, vous vomiriez et vous essayeriez de manger de la tarte aux cerises. Et vous vomiriez, voyez-vous, vous faites du mal. Et c'est ce que vous faites lorsque vous essayez de vous forcer à faire quelque chose qui est contraire à l'Esprit. Il a destiné votre vie à une certaine chose. Comprenez-vous cela maintenant? Et vous, lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous êtes épris à tel point de Christ, et vous croyez que chaque parole qu'il dit est la vérité. Voyez-vous, c'est là l'évidence que vous possédez le Saint-Esprit. Et votre vie est pleine de joie. Et oh là là, tout est différent, voyez-vous, de ce que c'était. C'est le Saint-Esprit. Or, ces dons sont dans le Saint-Esprit. Maintenant, si cette assemblée, ce matin, juste une église confortable, pleine de l'espace supplémentaire, bien entendu, est rempli. Mais dans le, juste un, nous n'avons pas annoncé que nous allions répondre à ces questions. Mais ces gens sont simplement entrés. Remarquez, si chaque personne ici était en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit, si chacun de vous était rempli du Saint-Esprit et en harmonie avec le Saint-Esprit, ces signes se multiplieraient simplement sans cesse parmi vous. Voyez-vous? Cela se produirait continuellement, mais lorsqu'il y a de la confusion, là où il y a de la dispute, et là où nous nous élevons, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Vous voyez, il ne peut pas agir au travers des gens, voyez-vous. Si je disais, maintenant chacun de vous a-t-il parlé en langue? Oui, eh bien vous l'avez. Avez-vous parlé en langue? Non, vous ne l'avez pas. Alors je me prends pour un juge. Dieu est le juge de ces choses. Mais prenez garde, Jésus a dit, ces signes les accompagneront. Voyez-vous, les groupes qui croient, toute la nature du Saint-Esprit coule à travers eux. Et sont tous pleins d'amour et de joie. Et sont tout simplement un groupe de gens dans lesquels vraiment Dieu habite. Voyez-vous, c'est ça le Saint-Esprit. Et là-dedans, il parle en langue. Lorsque les langues se présentent, ou quand cela est nécessaire, il parle en langue. Et si une prophétie, elle parle. Et on sait chaque fois parfaitement exact. Demandez à ces 15 ou 20 personnes qui sont entrées là pour des entrevues ce matin, s'il y avait un quelconque mot qui manquait. Et ce sont de parfaits inconnus. Le Saint-Esprit creuse tout au fond là-dedans et va chercher ces choses, les met en lumière, et leur dit. Voyez-vous, il n'y a pas une seule erreur en cela. Il leur dit exactement ce qu'est ceci, et ce qu'était ceci, et ce qu'est cela, et ce qu'il y a à faire, et des choses comme cela, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils devraient faire. Voyez-vous, c'est simplement mis parfaitement en ordre. Maintenant, c'est à eux d'agir d'après cela. L'autre soir, je parlais à un couple, et j'étais dans un foyer où nous avions une rencontre, ou simplement une discussion autour de la table. Et tout à coup, le Saint-Esprit descendit au milieu de nous. Et je dis à quelqu'un qui était là, « J'ai vu un certain homme, et il était troublé dans son esprit au sujet de certaines choses. » Et j'ajoutais, « Comme troublé au sujet du discernement. » Je dis, « Eh bien, c'est ici même maintenant. » Je dis, « Je sais ce que vous êtes en train de penser. » Et je revins tout à fait en arrière, et je répondis d'une façon détournée à chaque question que l'homme se posait dans son esprit. Personne d'autre que lui ne savait même de quoi je parlais, voyez-vous. Mais lui le comprit, il sut de quoi il s'agissait, voyez-vous. Et à quoi cela lui a-t-il servi? À lui montrer, à lui confirmer que le Saint-Esprit me révélait ce qui était dans sa pensée. Amen. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le dire aux autres. Cet homme m'écoute en cet instant même. Or c'est juste, maintenant vous voyez comment c'est une confirmation. Maintenant, si l'Église entière travaillait ainsi en harmonie, alors parmi nous, nous chasserions les démons, nous saisirions des serpents, boirions des breuvages mortels, toutes sortes de choses se produiraient. Mais lorsque vous essayez d'imposer cela aux individus, alors vous mettez vous-même, c'est à nouveau du pentecôtisme. Alors vous retrouvez Babylone, la confusion, vous ne pouvez pas juger cela, voyez-vous, nos cœurs débordent de joie et de bonheur, et oh là là, les oiseaux chantent, tout est merveilleux, oh là là, nous sommes tout simplement remplis de l'Esprit de Dieu, et nous aimons tellement Jésus, que nous avons envie de prier toute la nuit. Maintenant, je ne voudrais pas mettre cet auditoire dans l'embarras, ou même moi vis-à-vis de vous. Mais je me demande si je pouvais demander ce matin qui dans cet auditoire ou parmi ces gens a le Saint-Esprit. Probablement 90% d'entre vous lèveriez la main, témoignant que vous avez le Saint-Esprit. Puis je ferai volte-face et vous donnerai un signe dans la Bible, un signe dans la Bible. Et je doute qu'il y aurait plus d'une ou deux mains levées. Voyez-vous, vous pourriez simplement continuer ainsi en donnant d'autres exemples. Mais lorsque vous faites cela, voyez-vous, vous faites aussi du mal à votre assemblée. Mais vous devez les faire sortir de cet état de bébé pour les amener à l'état adulte. Voyez-vous? C'est comme quelqu'un qui a écrit la question l'autre jour que j'avais là, qui disait quelque chose au sujet de frère Junior Jackson. Quelqu'un est allé là-bas et on a dit, vous descendez chez les haricots morts, ou quelque chose ainsi. Frère Jackson, parce que dans l'assemblée de frère Jackson, on lui laisse parler en langue de l'église même. Chaque fois qu'ils sont d'esprit et désirent parler en langue, ils y vont et le font. Eh bien, ça c'est l'église de frère Jackson. C'est parfaitement en ordre. Je n'ai rien à contre. Absolument rien. Junior Jackson est l'un de mes meilleurs amis. Et c'est un homme vraiment pieux, rempli d'esprit de Dieu. Et nous sommes frères. Maintenant, il n'est pas obligé de manger ma tarte aux cerises. Je puis, ou bien, je ne suis pas obligé de manger sa tarte aux pommes, voyez-vous. Mais nous mangeons tous les deux de la tarte. Nous croyons tous les deux exactement ce message. Ceci est l'ordre de l'Église. J'ai dit, je désire que mon Église essaye de se réunir. Je dis, lorsque le Saint-Esprit a commencé à se manifester ici avec le parlant langue, etc., je dis, quelqu'un m'a demandé, « Mon frère Branham, est-ce que tout cela est véritable ?» J'ai dit, « Je ne suis pas juge, mais je vais vous dire ce que nous allons faire. » Nous allons le soumettre au test. Laissez cela aller quelque temps, puis soumettez-le au test en le mettant face à face avec la parole. Et regardez ce qui arrive. Si c'est le Saint-Esprit, il sera en ordre avec la parole. Sinon, ce ne sera pas le cas. Vous voyez, c'est seulement de cette façon que vous pouvez le reconnaître. Alors cela se juge tout seul. Vous voyez, ils sauteront en l'air si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils s'emporteront. Voyez-vous, mais si c'est le Saint-Esprit, il se tiendra humblement en ligne. Car c'est ce qu'il est. C'est le Saint-Esprit qui reconnaît l'ordre qu'il a lui-même donné. Maintenant, pour ce qui est du parler en langue et des autres choses, je souhaiterais que chacun de vous parle en langue, assurément. Et bien des fois, de bons chrétiens, vous voyez, si je vous dis que cela était au programme, j'ai trouvé quelqu'un, non pas au programme, excusez-moi, parmi les entrevues ce matin, une personne, je pense, qu'elle est toujours ici dans la salle, c'était au sujet du parler en langue. Cette personne est sincère et loyale, elle mène une vie correcte. Elle m'a entendu dire que l'évidence du Saint-Esprit n'était pas le parler en langue, et ça ne l'est pas. Mais j'ai conseillé à cette personne de demander à Dieu de la laisser parler soit en langue, soit prophétiser, parce que c'est sa nature qui veut ça. Premièrement, je suis allé vers cette personne et j'ai découvert son lieu de naissance et sous quel signe elle était née. Et j'ai pu lui dire ce qu'était sa naissance. L'angle sous lequel se situe leur caractère naturel les place dans une certaine ligne. Puis quand ils sont nés de nouveau, ils sont ici dans une autre nature. Alors quand vous trouvez cela dans cette nature, c'est la conscience intérieure. La conscience extérieure vous pousse dans une direction. C'est votre naissance naturelle. Puis ils feront quelque chose, et qu'est-ce qui leur arrive? Cela les place dans une situation où ils sont partagés. Ils ne savent pas que faire. Ils diront, le Seigneur veut que je fasse ceci. L'Seigneur dira, oh, je sais parfaitement que c'est conforme à l'Écriture. Elles commenceront à faire cette chose, et vous verrez bientôt Satan à l'extérieur leur montrer toutes sortes de défauts là-dedans. Alors qu'ils disent, eh bien, je pense que je... Voyez-vous, ils écoutent Satan, voyez-vous. Vous devez prendre ce quelque chose d'intérieur, ce quelque chose à l'intérieur de vous qui est scripturaire. Et ne laissez pas Satan se tenir quelque part. C'est son devoir de se tenir là, et de vous taper dessus ainsi. Mais ne l'écoutez surtout pas. J'ai donc dit à cette personne, elle dit, « Eh bien maintenant, si seulement je peux être sûr d'avoir le Saint-Esprit, voyez-vous, une personne vraiment bien et loyale, ayant le Saint-Esprit, mais il serait bon pour elle de dire, « Père, donne-moi simplement ceci pour avoir quelque chose sur quoi m'appuyer. » Maintenant, si j'enseignais cela de cette manière, les gens chercheraient à s'emparer de cela sans avoir ce que cette personne possède. Voyez-vous, le Saint-Esprit parle effectivement en langue, mais il faut premièrement que vous ayez le Saint-Esprit avant qu'il puisse parler en langue. Maintenant, saisissez-vous. Alors, si vous cherchez à vous emparer d'un don de parler en langue sans... Or, souvenez-vous que cela peut être un don authentique. Cela pourrait être le Saint-Esprit parlant en vous, en langues inconnues, et que malgré tout, vous soyez perdus et alliés en enfer. La Bible dit. Croyez-vous cela? Voudriez-vous un passage d'écriture à ce sujet? Levez la main si vous en désirez un. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Est-ce juste? À la fois celles qui peuvent être interprétées et celles qui ne peuvent pas être interprétées. Des langues authentiques du Saint-Esprit. Je ne suis rien. Voyez-vous, à moins que cette autre chose accompagne cela. Vous pouvez avoir ceci, voyez-vous. Ainsi ne recherchez pas cela sans avoir ceci. Et d'abord ceci, et alors cela suivra tout naturellement. Maintenant la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le soleil brille sur les méchants et sur les bons. La pluie tombe pour faire mûrir la moisson. Cette même pluie fait aussi mûrir l'ivraie. Le Saint-Esprit peut tomber sur un groupe de gens et parler en langue et faire que cela soit parfaitement exact. Ou prophétiser et que ce soit parfaitement exact. C'est absolument vrai. Parfois vous pouvez aller chez un sorcier ou un médium et il peut dire quelque chose qui est parfaitement juste. Regardez la sorcière d'Endor. Saül. Cela pourrait être parfaitement vrai, mais ce n'est toujours pas ça. Ce sont des sorciers. parler en langue, j'ai vu des démons parler en langue et écrire en langue inconnue. Cela ne signifie rien du tout. Mais la chose authentique, c'est à nouveau cette parole. Retournez à cette parole. Ainsi, vous pouvez faire ces choses sans la parole. Mais lorsque vous avez la parole et qu'elle le fait, alors regardez cela s'accomplir exactement. La chose étant parfaitement juste. Voyez-vous, alors que vous êtes parfaitement en ligne. Oui, le Saint-Esprit utilise ces gens selon que le décide sa sagesse divine. Mais la première chose, laissez-moi maintenant vous donner un petit argument déconcertant, juste une minute. Si je disais, combien au Saint-Esprit, vous lèveriez tous la main. Je dirais alors, très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient, gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, combien de mains se lèveraient? Combien parmi vous ne peuvent pas se reposer la nuit, est-on si plein de joie de la puissance de Dieu, et si triste à cause des gens qui sont perdus, que jour et nuit vous pleurez et gémissez à cause des abominations. Voyez-vous, qui serait ainsi dans la ville? Combien y en aurait-il dans l'église? C'est ce qu'a déclaré la Bible comme évidence du Saint-Esprit. Il dit aux anges qui marquaient du sceau, Ézéchiel 9, c'est juste, passez au milieu de la ville et faites une marche sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Que d'autres choses, laissez l'ange destructeur les détruire, peu importe qu'ils aient été de bons membres et le nombre de choses qu'ils aient faites. Et un homme avec un encrier d'écrivain, vêtu de blanc, ce qui représentait le Saint-Esprit, sortit et mit une marche sur tous ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant vous dites, et observez aussi ce qu'il dit là, tuez, détruisez les petits enfants, les vieillards, les femmes, les bébés, tuez-les tous. Les petits enfants, oui. Lorsque Jésus entra dans le pays de Canaan, il dit, ne laissez surtout pas vivre un seul. Si c'est un mignon petit bébé, un petit amalécite ou un amoréen, tuez-le. Souvenez-vous, il grandira et deviendra un amalécite, il polluera le camp. Et quand ces petites choses reviennent ainsi, se trouvant en désaccord avec la parole de Dieu, débarrassez-vous-en, peu importe à quelle dénomination cela appartient. Vous dites, eh bien, ils sont bons, ils sont bons, peu importe la bonté de ces gens, qui sont contraires à cette parole, faites sortir cela de vous. C'est un petit amalécite qui grandit, il paraît mignon, innocent, ça semblerait en ordre, mais surtout n'ayez rien à faire avec cela, tenez-vous-en éloigné. Eh bien, frère Branham, je descends ici parce que, eh bien, souvenez-vous simplement, tenez-vous-en éloigné. Tenez-vous éloigné de tout amalécite et de tout ce qui nie la parole. N'ayez rien à faire du tout avec cela.
Amen.
Combien croient que c'est la vérité? Certainement que ça l'est. Voyez-vous, tenez-vous-en éloigné. Qui soupire et gémit à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Où voyez-vous cela? Je peux vous montrer 10 000 personnes qui parlent en langue contre une seule qui est réellement accablée à cause du péché. Des gens qui ne peuvent même pas prier une heure. Mais saviez-vous que la Bible dit « Marque seulement ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations dans la ville ?» Combien ont déjà lu cela? Certainement, c'était le Saint-Esprit qui sortit pour marquer les gens. Elle dit à l'ange destructeur « Sors et détruis tous ceux qui n'ont pas cette marque sur eux. » Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de Dieu. Maintenant, où sont ces personnes qui ont un tel fardeau pour cela? Je peux vous montrer dans une église des gens qui sautillent et qui pleurent. Je peux vous montrer des gens qui crient, qui courent partout dans la salle. Je peux vous montrer des gens qui prophétisent et cela s'accomplit. Je peux vous montrer ceux qui parlent en langue et qui courent d'un bout à l'autre de la salle et qui disent des choses qui sont réellement interprétées et qui s'accomplissent. Mais où est cette personne qui soupire et qui gémit à cause d'abominations qui sont commises dans la ville? Où est cette âme qui est accablée? Vous pourriez prendre de bonnes résolutions à ce sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'ai fait de mon mieux pour vous instruire et vous conduire comme un père le ferait pour ses enfants. Vous êtes mes enfants, je vous ai engendré à Christ par cet évangile que je prêche, voyez-vous? Et je désire que vous deveniez des enfants complètement mûrs. Et je désire vous présenter à Christ ce jour-là comme une vierge pure. Comme disait Paul, il n'y a pas une chose dans cette parole que votre cœur ne ponctuera d'un « Amen ». Le péché n'a pas, bien sûr vous ferez des erreurs, mais dès que la première chose vous condamnera, vous direz, Père, pardonne-moi. Je vais dire ceci, je viens de regarder quelqu'un il y a quelques minutes, il m'interrogeait l'autre jour au sujet d'un brave garçon. Nous étions à la chasse aux écureuils. Ce matin-là, j'en ai attrapé 5, j'ai gardé l'autre pour l'après-midi. Vous pouvez seulement en attraper 6 dans l'état du Kentucky, c'est la limite. Ainsi, cette personne en question me dit, je n'ai attrapé 9, il était chrétien, un brave garçon. Je dis, tu as mal agi, tu as mal agi. Il dit, eh bien, je dis, j'en ai eu 5 ce matin-là. J'en ai gardé 1 pour l'après-midi. Et lorsque j'ai attrapé cet écureuil dans l'arbre où je regardais, j'ai pu en compter 5 ou 6 à cet endroit-là. Mais je me suis éloigné et les ai laissés. Je dis, je me suis promené par ici il n'y a pas longtemps, et il y avait entre 15 et 20 qui se trouvaient là. Je n'ai simplement pris le nombre permis, et je suis parti en laissant les autres là. J'ai dit, si je viens dans cette région pour vous prêcher à vous garçons et aux gens d'ici, la chose juste, ma vie doit pouvoir servir d'exemple. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez, ce que vous faites. C'est un exemple. Vous êtes le sel de la terre. J'ai dit, puis la loi dit, Jésus a dit, rendez à César les choses qui appartiennent à César. Quand vous enfreignez cette limite de vitesse là-bas, que faites-vous? Vous faites mal, vous péchez. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous dites, eh bien, la loi n'est pas juste. Je n'y peux rien si cela n'est pas juste. Mais c'est faux de briser le commandement de Jésus. Et si vous ne rendez pas à César les choses qui sont à César, alors vous avez fait ce que Jésus a dit de ne pas faire. Et vous avez obéi à la loi du péché. Et juste, nous sommes tous coupables. Nous le faisons. Et quand vous voyez que vous êtes dans l'erreur, arrêtez. Les gens vous surveillent. Les gens n'iront pas à l'église, mais ils vous observeront et verront ce que vous faites. Ainsi, recevez Christ dans votre cœur. C'est en vrai. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, Christ signifie loin. Et le Saint-Esprit est cette onction. Et vous êtes celui qui est loin. Voyez-vous? Et c'est Christ en vous qui vous loin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous avez la chose correcte. Alors il peut vous utiliser dans quoi que ce soit qu'il désire. Parce que vous êtes dans le corps et vous êtes à même de recevoir n'importe lequel de ses dons. Mais voyez-vous, le fait de posséder l'un de ses dons hors du corps ne vous ferait aucun bien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, s'il n'est pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand j'aurai la foi, je pourrai comprendre tous les mystères de Dieu, cela ne me sert de rien. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice et que je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand j'aurai la foi pour transporter une montagne, je ne suis rien. Voyez-vous, ne vous appuyez pas sur ces choses. Le Saint-Esprit est un être. C'est Dieu. Et Dieu en vous. Amen. Dieu la personne qui a illuminé votre être entier. Vous êtes changé. Vous êtes une nouvelle créature. Alors, moindre chose qui est mal, il vous dira que c'est faux. Alors arrêtez. Ne le faites pas. Père, je ne voulais pas faire cela. Pardonne-moi. Voyez-vous. Et cela, c'est le Saint-Esprit. Peu m'importe combien vous avez parlé en langue, combien vous avez couru, combien vous avez sauté, combien vous avez fait ceci et cela, voyez-vous. Quoi que vous ayez fait, cela ne voudrait absolument rien dire si le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur pour vous reprendre lorsque vous faites quelque chose de mal. Maintenant, c'est la raison pour laquelle cette personne ici a raison. Laissez le Saint-Esprit le faire. Mais maintenant, voyez-vous, maintenant, ce qui est la cause de ceci, laissez-moi le dire avec amour, aspergé d'amour et oint par la parole, voyez-vous. Si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne douteriez pas de cela. Vous le savez vous-même, c'est une affaire personnelle entre vous et Dieu, voyez-vous. Vous savez que quelque chose est produit. Vous savez qu'il y a eu un changement. S'il n'y a rien d'autre, vous savez que vous, vous-même, vous êtes le changement, voyez-vous. Vous êtes celui qui avait fait le changement à l'intérieur de vous, et vous savez que vous l'avez. Que vous ayez parlé en langue, ou que vous ayez sauté, ou crié, ou quoi que ce soit d'autre, vous savez que Dieu vit en vous, que vous ne vivez pas selon votre propre pensée, mais que c'est la pensée de Christ qui vous conduit avec cette parole, exactement là où elle va. Bon, mais je voudrais, si les gens disent, eh bien alors, frère Branham, vous ne croyez pas que nous devrions parler en langue, voyez-vous? Alors vous saisissez justement le contraire de ce que je viens de dire. Certainement, je crois que vous devriez parler en langue, certains d'entre vous, voyez-vous? Mais on vous donne ces questions, on me les donne comme la question qu'on a eue qui traitait de ces 2200 kilomètres, voyez-vous, qui était en relation avec le tabernacle, ici justement. Justement, si vous ne comprenez pas, alors demandez-le-moi, voyez-vous, réécrivez-moi ce sujet si vous ne comprenez pas. Dites simplement ce que je dis ici, voyez-vous, comme Paul disait, suivez-moi ou soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Amen. Vous voyez, puis si vous voyez que je suis dans l'erreur, alors éloignez-vous de moi, voyez-vous, c'est tout, parce que je serai la mauvaise personne, voyez-vous. Veuillez expliquer, s'il vous plaît. Les gens disent que frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que frère Branham. Maintenant, laissez-moi, la personne a dit ceci, qui qu'elle soit, je ne la connais pas, mais je suis votre frère. Voyez-vous, Jésus est votre sauveur, je ne peux pas être votre sauveur, car il vous a déjà sauvé. Maintenant, la personne qui a raconté ça à cette personne-ci est si près de la vérité à ce sujet, et pourtant on est si loin. Or, ceci m'a tout l'air d'être une écriture de femme, une très belle écriture. Je dirais que c'est une écriture de femme. Pas vous, frère Caps, ne penseriez-vous pas que c'est une écriture de femme? Une jolie écriture. Et je ne sais pas qui c'est, voyez-vous. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler, ou seriez-vous Jésus, ou quelque chose comme cela? Dans un sens, dans un certain sens, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, c'est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist, voyez-vous, car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Elle reviendra avec une grande puissance et dans la gloire. Mais que sa vie, qui était en lui, soit sur moi et sur vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. Vous souvenez-vous de mon message sur les messiettes? Voyez-vous, vous êtes. Le mot Messie signifie loin. Maintenant vous êtes, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez loin. Voyez-vous? Or, il y a toutes sortes de loin. Observez donc si c'est un loin selon la Bible. Beaucoup sont loin, voyez-vous? Tout est dans un tel état de, il y a un tel mélange, et Satan est entré avec toute sa ruse et a imité cela à la lettre, presque à la lettre. Il n'y a qu'un moyen d'être absolument sûr. Vérifiez mot à mot, c'est le seul moyen pour vous d'être sûr. Mais que moi, en tant que personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, soit le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est une erreur. Mais être loin de son esprit, qui amène en vous la vie de sa propre personne, cela fut si merveilleusement typifié en Élie et Élisée. Lorsqu'Élie, le vieux prophète, fut enlevé et qu'il s'en alla dans la maison, il était là et fatigué. Et il y avait de l'autre côté de la rivière un chariot attelé à des chevaux de feu pour l'emmener à la maison. Et avez-vous remarqué qu'Élie et Élisée traversaient la rivière? L'école des prophètes les observait de là-haut. Qu'Élie prit son manteau, frappa la rivière, et qu'à ce moment-là se partagea en deux. Il passa alors de l'autre côté, et qu'il dit au jeune prophète, « Pourquoi me suis-tu? Que désires-tu? » Il répondit, « Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. » Qu'une double portion de ce puissant prophète vienne sur moi? Il dit, « Tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois, lorsque je m'en irai, alors il viendra sur toi. » Ainsi, vous pouvez vous imaginer à quel point surveilla le prophète. Maintenant, ce temps-là, ce prophète était la parole, car il était la manifestation de la parole pour le monde. Voyez-vous? Elle savait qu'il devait y avoir encore un plus grand ministère, car cela nécessitait une plus grande chose. Et lorsque Jésus était ici sur terre, il était l'Élie. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, comment allez-vous faire cela? Observez-le. Qui est-il? La parole.
Alléluia.
Voyez-vous, observez-le. Maintenant, pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené à l'existence quelque chose. Il prit d'abord une substance, il prit de l'eau, en fit du vin, il prit du pain et en fit davantage de pain, il prit du poisson et en fit davantage de poisson. Mais il promit qu'il se ferait des choses plus grandes que celles-ci. Voyez-vous, maintenant pourquoi? Parce que c'est un temps plus mauvais que lorsqu'il était ici. Voyez-vous, c'est toujours lui. Mais utilisons votre tabernacle. Voyez-vous, et cette personne qui est en vous, de par votre naissance, vous êtes John Doe. Vous êtes né dans un certain mois, et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose. Et cela a quelque chose à voir avec vous, certainement. Je sais que j'avais coutume de... Papa avait l'habitude de dire, « Je ne peux pas planter ces pommes de terre maintenant, parce que ce n'est pas la bonne lune. Tu ne peux pas planter ces pommes de terre, Billy. » Et je disais, « Je ne les plante pas dans la lune, je les plante ici dans la terre. » Il disait, « Très bien, petit Finot, vas-y. Lorsque tu auras quelques bosses à la tête, tu auras appris quelque chose. » J'ai appris. Je vais vous dire, prenez une planche, déposez-la d'or sur l'herbe, à la nouvelle lune, et regardez ce qui arrive. Cette herbe mourra immédiatement. Déposez-la au clair de lune, vous pouvez la laisser là pendant une semaine, cela ne lui fera pas le moindre mal. Observez la mer lorsque la lune change là-haut, lorsque la lune disparaît, la marée la suit. Elle est pourtant à des millions de kilomètres de la Terre. Ce n'est pas tout. Descendez ici dans l'état du Kentucky et enfoncez un tuyau dans le sol jusqu'à ce que vous atteigniez l'eau salée. Et observez dans ce tuyau le niveau de l'eau lorsque la marée est montante et lorsque elle est descendante. Et ceci bien que cela soit sous terre, certainement. plantez quelque chose qui s'étend à la surface de la terre. À la nouvelle lune, regardez comment cela descend et devient comme un radis ou un navet. Replantez cela de l'autre façon et observez comment cela s'étale à la surface de la terre. Certainement, cela joue un rôle. Pourquoi Aaron avait-il sur son pectoral la pierre du mois de naissance de chacun de ses patriarches? Regardez ses mères lorsqu'elles parlèrent, lorsque ses mères et ses femmes hébraïques, en train d'enfanter, parlèrent au sujet de ces enfants qui naissaient. Cela plaça leur nom, cela raconta leur naissance, cela les plaça dans la patrie, cela les établit pour l'éternité. Un de ces jours, quand je rentrerai et que je resterai quelque temps, je désire aborder ce sujet. Parfaitement. Puis observez Jacob, en train de mourir, quand il imposa les mains aux patriarches et les bénit. Il leur dit exactement où ils seraient, et c'est exactement selon leur nom et leur naissance. Et cela a certainement quelque chose à voir avec vous. Maintenant, cela c'est votre ligne de naissance. C'est ce que vous êtes, un homme naturel ou une femme naturelle. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, Amen. Il n'est pas question de la conscience extérieure. Amen. L'extérieur consiste en ce que vous voyez, goûtez, touchez, sentez et entendez. Mais l'intérieur de cela, c'est ce que vous êtes réellement. Or, ici à l'extérieur, Satan vous tente et vous frappe de tous les côtés. Mais là, à l'intérieur, il ne peut pas le faire à moins que vous le laissiez faire.
Amen.
Parce qu'ici à l'intérieur, vous avez la foi. Et la foi ne vient pas de la conscience extérieure qui résonne. Mais dans la foi, il n'y a aucun raisonnement. Amen. Vous l'avez reçue de Dieu. Amen. Et vous savez qu'elle est là. Amen. Peu importe que cela semble faux, vous savez que c'est juste. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur.
Amen.
Voyez-vous, il n'y a rien qui puisse troubler cela. Rien ne peut troubler cela. Elle avance tout droit. Les difficultés ne signifient rien pour elle. Elle se fraye un chemin à travers cela, car elle est la parole. Elle a parole et l'épée. Elle a parole tranche. L'épée tranche et se libère elle-même de toutes les autres choses. Voyez-vous, il faut la main de la foi pour tenir cette parole. Cette foi doit être, voyez-vous, lorsque cette conscience est intérieure. Voici l'intérieur, voilà l'extérieur, cela est révélé à l'intérieur, la vérité. Ici à l'extérieur, c'est la raison. Maintenant, cela ne semblerait-il pas raisonnable si nous disions simplement, allons tous nous joindre aux assemblées. Oh, or, j'aime les assemblées de Dieu, j'aime les unitaires, j'aime toutes ces églises. Pourquoi n'allons-nous pas simplement nous affilier avec elles? Cela nous ferait peut-être du bien. C'est la raison, l'extérieur. Mais ici à l'intérieur, surveillez cela. Comme vous voyez ici que cela ne concorde pas, alors regardez les assemblées. Bien des choses qu'ils font, je ne crois pas qu'elles soient scripturaires. Et je peux leur prouver qu'elles ne sont pas scripturaires. Mais cela est tellement bourré d'idées. Il y a des milliers de ces frères et sœurs des assemblées qui croient ceci, la parole, et qui ne croient pas que ce que les assemblées enseignent est juste. Mais ils sont dans le filet. Les baptistes, les presbytériens, les unitaires et tous les autres, ils sont dans ce filet où un groupe d'hommes se réunit et ils raisonnent à propos de cela. Et il y a tant de prestige autour d'un homme. Voici par exemple un évêque, un surveillant général. S'il dit quelque chose, qu'est-ce que va dire l'homme de moindre importance? Il a peur de dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est juste. Non. Oui, monsieur l'évêque, ou monsieur l'ancien, vous, c'est parfaitement juste. Il est d'accord avec lui. Prenons par exemple un alcoolique ici dans la rue. Parce que c'est un simple citoyen qui descend la rue, on dira, oh, le vieux clochard, il n'a rien d'intéressant. Mais prenez-le et faites-en un agent de police. Mettez-lui un insigne et donnez-lui un revolver. Oh, bonjour Jean, ça me fait si plaisir de te revoir. Voyez-vous, c'est se respecter mutuellement. Jésus a dit, comment pouvez-vous avoir la foi quand vous en aurez de la sorte? Vous savez, se solliciter, s'honorer, je ne me souviens pas comment cela est dit. Mais lorsque vous désirez recevoir des honneurs les uns des autres, voyez-vous, vous ne pouvez pas faire cela. Et lorsque des hommes se groupent en une organisation, ils s'assoient. Et l'homme de moindre importance craint de dire quoi que ce soit, parce que l'évêque a dit ceci, parce que l'ancien a dit cela. Mais ne manquez pas d'égard envers cet homme. Reconnaissez que c'est un brave homme. Toutefois, souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est juste et que tout ce qui est contraire est faux. Que ma parole soit vraie, que toute parole d'homme soit un mensonge. Voyez-vous cela? C'est ce que nous désirons faire. Croyez cela. Maintenant, souvenez-vous, nous ne sommes pas la parole. Pourtant, nous sommes la parole. Ah, comprenez-vous cela maintenant? Jésus n'était pas Dieu. Pourtant, il était Dieu.
Amen.
Il était un homme. Pourtant, il était Dieu. Il pouvait pleurer. Cependant, il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d'un homme qui était mort et pouvait le ressusciter. Il était Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, il était Jéhovah tout parfaitement, il était Jéhovah, et cependant il était un homme. Il possédait la terre, il l'avait créée, et il n'avait aucun endroit où reposer sa tête. Il disait, les oiseaux que j'ai créés ont des nids, et je n'ai aucun endroit à reposer ma tête. Les renards que j'ai créés ont des tanières dans la terre, et je n'ai même pas moi-même un endroit pour être enterré. C'est juste, il lui a emprunté le tombeau de quelqu'un pour y être enseveli. Il créa le sein qui est dans la femme. Il n'avait aucun sein dans lequel naître. Il lui en a emprunté un. Il créa la terre, et elle n'avait aucun endroit où être enseveli. Il lui a emprunté un trou dans la terre pour y être enseveli. À Joseph d'Arimathée. Voyez-vous? Il lui empruntait un endroit, cependant il était Dieu. Il avait prouvé qu'il était Dieu. Maintenant, comprenez-vous, nous ne sommes pas, nous sommes des messiettes, mais non pas ce Jésus-là. Il est notre Père, nous sommes seulement loin de son esprit, et c'est la raison pour laquelle sa vie, et cela trouble les gens. Voyez-vous, si vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir sérieusement, cela amène les gens à croire, eh bien, cet homme serait le Messie, certainement qu'il l'est. Celui-là pourrait l'être, ils le sont tous les deux, voyez-vous. Eh bien, comment peut-il y en avoir deux? Il y en a des milliers, voyez-vous. Mais vous comprenez, sa vie s'est partagée le jour de la Pentecôte. Lorsque cette colonne de feu descendit, elle se sépara comme des langues et se posa sur chacun d'eux. Dieu se répartissant parmi son peuple, parce que l'Église et Christ sont un, tout comme le mari et la femme sont un. Frère Branham, comment suis-je censé montrer à ma femme que je l'aime réellement, tout en jouant, restant cependant avec la parole. C'est ça, en restant avec la parole, mais en ayant quand même une question comme celle qu'elle m'a posée. Pourquoi ne mets-tu pas en pratique ce que tu prêches ou ce que tu crois? Eh bien, si votre femme vous dit cela, alors qu'elle a raison de le dire, vous feriez mieux de vous mettre en ordre, voyez-vous. Puis, si elle dit cela simplement par malice, souvenez-vous, la Bible dit, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jeta dans les profondeurs de la mer que d'offenser le plus petit de ceux-ci qui sont les miens. Maintenant, c'est juste votre question. Cette épouse n'est peut-être pas ce genre de personne. Elle est peut-être différente. C'est peut-être une bonne personne. Elle vous teste peut-être simplement pour voir ce que vous allez faire. Maintenant, continuez à l'aimer et laissez-lui voir Jésus en vous. Faites cela, voyez-vous, continuez simplement. Je vais donner une petite illustration ce matin au sujet d'une personne qui... Une fois, il y avait une petite dame qui avait reçu le Saint-Esprit. C'était une charmante petite dame. Eh bien, elle avait la vie dure et son mari était un alcoolique. Ainsi donc, elle continua simplement, elle le supporta. Il dit, « Si tu vas aller à l'église, chérie, vas-y, mais moi, je descends au saloon là-bas, au Brown Derby. Vas-y. » Ainsi, ils passaient tout leur temps là-bas, c'était autrefois chez les Bonifères. Beaucoup parmi vous, les anciens ici, vous vous souvenez lorsque Bonifère se trouvait là, au coin de la rue, de... Ça s'appelle maintenant Brown Derby, je pense. Ainsi, il était là, et voilà qu'un soir, une question est venue à propos de l'église et des chrétiens. L'un des ivrognes qui était assis là dit, « Ça n'existe plus les chrétiens, ça n'existe pas, dit-il. Toute cette bande d'hypocrites, vous les voyez ici dehors, fumer, boire et faire la même chose que nous, et s'appeler chrétiens, ça n'existe pas. » Eh bien, ce vieil ivrogne se leva et dit, « Une minute, j'en connais un. » Ils dirent, « Qui est-ce ? » Il dit, « C'est ma femme. » Voyez-vous, elle était devenue salée et il le remarquait sans cesse. L'autre dit, « Je te parie que si elle était mise à l'épreuve. » Il répondit, « Non, elle est toujours chrétienne. Je vais te le prouver. » Il dit, « Je vais te dire ce que nous allons faire. Montons à la maison et je te montrerai si elle est une chrétienne ou non. Montons à la maison, dit-il, et maintenant soyons vraiment ivres. Nous allons faire semblant d'être vraiment ivres. » Il frappa à la porte, entra en titubant et, « Pourquoi ne viendriez-vous pas vous asseoir par ici ?» Elle leur installa des chaises, car elles étaient les invitées de son mari, vous savez, essaya de leur faire un aussi bon accueil que possible. Il dit, « Je veux que tu nous prépares à souper. » Ainsi, elle alla leur préparer à souper. Il dit, « Nous voulons du jambon et des œufs. » Ils savaient qu'ils avaient cela. Ainsi, ils se firent préparer du jambon et des œufs. Lorsqu'il arriva à table, il les regarda comme cela, prit son assiette et la flanqua par terre. Il dit, « Tu sais bien que je n'aime pas les œufs ainsi. Allons les gars, sortons d'ici, comme cela. » Ils sortirent et s'assirent ainsi, vous savez. Et elle sortit, elle dit, « Chérie, je regrette de ne les avoir pas réussis. Je vais t'en préparer d'autres. » Il dit, « Oh, allons donc, d'abord tu savais que je les aimais pas comme ça. » Continuant à manifester sa mauvaise humeur, ils allèrent un peu plus loin, s'assirent et virent semblant d'être ivres. Ils l'entendirent dans la maison, se chanter tout bas elle-même, Jésus doit-il porter la croix tout seul et le monde entier marcher librement? Il y a une croix pour chacun et il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. L'un des ivrognes regarda l'autre et dit, c'est une chrétienne, c'en est vraiment une. Et cette petite dame conduisit son mari et les autres aussi à Christ ce soir-là. Voyez-vous pourquoi? Voyez-vous? Soyez simplement très doux. Rappelez-vous simplement qu'il sait tout à ce sujet. Ainsi, sœur ou frère, qui vous soyez, ici il s'agit d'un frère car il a posé la question au sujet de sa femme, soyez simplement salé, elle deviendra soiffée, s'il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, souvenez-vous, si vous avez la mauvaise personne comme compagne, vous aurez la bonne dans le millénium. Continuez simplement à avancer, toutes les erreurs seront rectifiées là-bas. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce soit vous qui prêchiez. Autrement, au tabernacle, en d'autres termes, au tabernacle. Ils ont écrit autrement ce qui signifie en d'autres termes. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou les jours de fête, et que nous pouvons travailler, pêcher, et ainsi de suite. Ou, je dirais que c'était écrit dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Juste au bas de la page, il semble. Ou dimanche, je pense que c'est cela. Jour de fête ou dimanche, oui, les dimanches. C'est ce qui semble être écrit. Les jours de fête, dimanche, et les jours de fête. Non, vous faites erreur, voyez-vous. Laissez-moi examiner cette question et répondre simplement en passant. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce soit vous qui prêchiez. Prêchiez ou autrement au tabernacle. Non, je n'enseigne pas cela. Je ne crois pas cela, je n'y crois pas. Nous avons des serviteurs ici qui sont dispersés dans tout le pays, et je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Amen. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à n'importe quelle église qui enseigne la parole. Et je crois que s'ils n'enseignent pas toute la parole, et que vous ne pouvez pas aller ailleurs où ils enseignent toute la parole, dans ce cas-là, allez où ils enseignent la moitié de la parole, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Allez de toute façon à l'église, faites-le. Et aussi enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou un autre jour de fête, et que nous pouvons travailler, ou comme travailler, ou aller à la pêche, ou aller pêcher le dimanche. Je crois que c'est un péché d'aller à la pêche, et à la chasse, et de travailler le dimanche quand vous pouvez aller à l'église. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. Y a-t-il un commandement à propos d'une telle chose? Oui, monsieur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous avions un type du jour du sabbat. C'était tout. Et Jésus n'est pas venu pour que vous observiez les jours de sabbat. L'ancien jour de sabbat était le samedi, lequel se trouvait à la fin de la semaine. Le dimanche est le huitième jour, le premier jour de la semaine, jour où Jésus ressuscita. Je ne crois pas que c'est juste de... Maintenant, si vous êtes très éloigné, quelque part dans un désert, et que vous soyez là-bas dans une partie de chasse, qu'il n'y ait pas d'église dans les alentours, rien de tel, et que vous ne puissiez rien faire, et si vous étiez à la pêche, je crois que ce serait en ordre. Mais si vous vous trouvez dans les environs d'une ville, ou à proximité d'une église, vous devriez aller de toute façon à l'église quelque part. Et je crois, pour ce qui est du travail, je crois que si le bœuf est tombé dans le fossé, ou quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y et faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, s'il faut que vous fassiez ainsi, mais si vous le faites et que vous attendiez jusqu'au dimanche pour le faire, que vous le fassiez simplement ainsi, vous avez tort, voyez-vous. Nous ne devons pas faire cela, nous devons respecter ce saint jour. Et maintenant, souvenez-vous, allez à l'église quelque part, à un certain endroit. Si, je pourrais nommer une certaine église dénominationnelle, mais je ne le ferai pas, parce que cette église, la seule chose que je sais qu'ils enseignent, et à laquelle je crois, c'est qu'ils disent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Eh bien, moi aussi, tout le reste de ce qu'ils enseignent, ils croient en, et que la rémission des péchés se fait par l'eau. Or, ce ne sont pas les unitariens, ils font la même chose. Mais je ne parle pas d'eux. Ils croient à cette régénération par l'eau et ainsi de suite. Et je ne crois pas cela. Et oh, ils croient que tout ce qui touche à la guérison divine est du diable. Et ils croient en tout. Ils sont les seuls à exister. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est simplement de mettre votre nom dans ce livre. Et si vous n'avez pas là, vous êtes perdu. Or, je ne crois pas cela. Mais s'il n'y avait aucune autre église où aller, je n'irai pas là pour critiquer, j'irai là dans le but de les aider par ma présence et de me trouver là-bas à côté de quelqu'un que le Christ qui est dans mon cœur peut influencer. Fréquentez-les, mais ne prenez point part à leur incrédulité. Frère Branham, je veux recevoir le Saint-Esprit, je désire savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau dans mon cœur pour le salut de ma famille. Et la sœur a signé. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire quelque chose, ma chère sœur, si vous êtes ici. Frère Neville, s'agit-il d'un membre de l'Église ici? Je ne me souviens pas de non plus, mais si vous êtes ici, sœur Beau, si vous êtes ici, laissez-moi vous dire, la Bible dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Vous êtes déjà béni, rien que de le désirer. Voyez-vous, maintenant souvenez-vous, ce n'est pas que vous l'ayez obtenu, mais heureux sont ceux qui ont faim soif de lui, car ils seront rassasiés. Amen. Tenez-vous-en simplement à cela. Que dois-je faire pour ma famille? Utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur et croyez de tout votre cœur que vous allez être sauvés. Que cette chose ne vienne pas simplement de votre pensée naturelle ici, laissez-la glisser tout à l'intérieur, dans votre subconscient. Alors ces choses vous appartiennent. Dieu vous les donne lorsque vous les avez ici à l'intérieur. Quoi que vous ayez dans votre cœur ici et que vous demandiez, lorsque vous priez, croyez que vous recevez ce que vous demandez. Maintenant, vous ne pouvez plus en douter. Vous ne pouvez pas à la fois croire et en douter. Combien ça cela? Vous ne pouvez pas croire et douter en même temps. Vous devez croire que ce que vous demandez, vous le recevez. Puis il a dit que cela vous serait accordé. Ainsi, croyez simplement pour votre famille et ils le recevront. Frère Branham, qu'en est-il de notre fils, étant donné que vous ne prêchez pas sur les trompettes? Vous souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite au téléphone à son sujet et concernant les 7 trompettes? Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas de ce que c'était, mais quoi que ce soit, faites savoir à Billy Paul ce que c'est. Quoi que j'ai promis, je le ferai. Je ne me souviens pas. Vous savez, parfois, je dois répondre au téléphone 30 ou 40 fois dans une soirée, voyez-vous. Ainsi, je ne me souviens pas soir après soir, parfois lorsque je suis par là autour. Ainsi, je ne comprends pas ce que c'est. Qu'en est-il de mon frère, de ma sœur catholique? Merci. Oh, cette personne est tout à fait de l'extérieur. Elle est du Texas. Eh bien, sœur, si vous êtes du Texas et que vous recevez cette bande, ou s'il y a une bande, je pense qu'il n'y aura pas de bande là-dessus. Mais s'il y en a une, sont-ils en train d'enregistrer? Vous enregistrez cela? Très bien, ils enregistrent la bande. Alors je vais vous dire ce qu'il en est. Si vous, sur cette bande, lorsque vous trouverez ceci, souvenez-vous, qu'en est-il notre fils, lorsque, au sujet de cette trompette? Je ne me souviens pas de cela, à moins que j'ai promis de le voir ou autre chose durant l'étude sur les 7 trompettes. Si oui, je le verrai, car je n'ai pas prêché sur les 7 trompettes, j'ai prêché sur la fête des trompettes. Avez-vous compris cela? Et qu'en est-il de mon frère et de ma sœur catholique? Merci. Je vais vous dire, madame, C-O-R-N-I-L-S-E-N. Si vous êtes ici, madame, voyez Billy Paul ce matin. Et sinon, eh bien, je ne comprends pas de quoi il s'agit, voyez-vous, c'est simplement une question. Je ne comprends pas, voyez-vous, ce que c'est, car j'ai promis de lui dire quelque chose au sujet de son fils et concernant les trompettes, et au sujet d'une sœur catholique, et je ne m'en souviens tout simplement pas. Voyez donc, Billy, ceci doit, c'est simplement une requête de prière. On donne le nom de la personne et on dit mal de tête et sinusite. Ainsi, c'était seulement prier simplement pour eux, je pense. Très bien. Veuillez expliquer mariage et divorce. J'ai déjà eu cela. Il y a 7 ou plutôt 8 questions sur le même morceau de papier. Veuillez expliquer mariage et divorce. Je les sais. Moïse et Élie sont-ils sur la terre en ce moment? Moïse et Élie sont-ils sur la terre en ce moment? Sont-ils en Amérique? Non, voyez-vous, non, ils ne sont pas ici. Ils ne seront pas ici avant l'enlèvement de l'Église. Alors Moïse et Élie, combien comprennent cela? Très bien. Et voyons un peu, ils n'ont ajouté aucune signature à ceci. Ainsi, très bien. Si jamais celui qui a posé ces questions, je crois qu'il y en a 7. J'en ai noté 7. Très bien. Expliquez la différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. Attendez un instant. Expliquez la différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Eh bien, c'est tous les deux la même chose. Ils sont appliqués de la même façon, voyez-vous. Ils sont appliqués à la même personne. Le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom de Jésus et le nom Jésus, c'est ce qu'il est. Le nom de Jésus parle de la personne. Ainsi, ce serait la même. Je pense que cela ne semble-t-il pas logique? Le nom Jésus, c'est la personne elle-même, et le nom de Jésus fait allusion à cette personne, voyez-vous? Disons, mon nom est William, c'est moi, très bien. Maintenant, vous dites, je parle le nom de William. Alors, vous faites allusion à moi, c'est mon nom, voyez-vous? Bien. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Oui, oui. Il fut une fois appelé le « Je suis », Il fut appelé Jéhovah et il changea plusieurs fois de nom. La dernière fois que ce fut changé, c'était lorsque Dieu fut fait chair et prit un nom humain. Jéhovah, je suis, et tous ces autres noms sont des titres d'un seul nom. Voyez-vous, si vous aviez été baptisé au nom de Jéhovah, il faudrait que vous le soyez au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été baptisé au nom de Jéhovah, Rapha, Jéhovah Manassé, Jéhovah Jiré, tous ces autres noms, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Le « Je suis » est Jésus-Christ. Souvenez-vous, lorsqu'il se tenait là, ce jour-là, et qu'il dit, « Vous dites que vous avez mangé la manne dans le désert. Nos pères ont mangé de la manne. Elles sont morts, dit-il. Ils dirent, « Eh bien, nous savons maintenant que tu es fou, parce que tu es seulement un homme et que tu n'as pas plus de 50 ans, et que tu dis que tu as vu Abraham. » Il répondit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Voyez-vous, il était le « Je suis ». Et tous les titres et noms qui ont pu appartenir à Dieu formèrent un nom humain, celui de Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, si le temps s'arrête lorsque les sceaux furent ouverts, alors... Si le temps s'est arrêté, pardonnez-moi, lorsque les sceaux furent ouverts, alors le millénium est aussi... Alors le millénium est aussi terminé, n'est-ce pas? Non, non, le temps ne s'est pas arrêté lorsque les sceaux furent ouverts. Vous avez mal compris cela. Ce qui est arrivé, c'est que les mystères furent révélés, mais pas que le temps s'est arrêté. Voyez-vous, regardez bien, faites bien attention maintenant, et faites jouer votre bande si vous avez pris cela d'une bande. Voyez-vous, le temps ne s'est jamais arrêté avant que... Celui qui a posé la question doit être un post-millénariste, ou quelque chose comme cela. Car voyez-vous, nous avons une période de 1000 ans après que l'Église soit allée à la maison et soit revenue sur la terre. Puis le temps s'arrête dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, le millénium n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y aura encore le péché après le millénium. Le millénium est un type de Noé qui entre dans l'arche et est transporté et qui amena Cam et les autres de l'autre côté. Et le péché est même sorti de l'arche, voyez-vous. Mais Enoch, qui fut enlevé, était un type de l'épouse qui monta, et non pas de celui qu'il faut porter de l'autre côté. Ainsi, le péché sera encore de l'autre côté du millénium, mais pas durant le millénium, voyez-vous. Durant le millénium, c'est la paix, voyez-vous. Mais la question du péché sera réglée de l'autre côté du millénium, et alors le taux disparaîtra. Et maintenant, l'ouverture des 7 sceaux qui fut donnée par le Saint-Esprit, les 7 sceaux furent donnés seulement pour faire connaître ce qui avait été laissé de ce côté dans les dispositions derrière nous. Maintenant, c'est comme un certain grand théologien qui a essayé de me coincer là-dessus. Il a dit, « Frère Branham, Dieu vous révélera un jour le secret de ces 7 sceaux. Ces 7 sceaux seront quelque chose que nous n'avons encore jamais appris. Ce sera quelque chose qui n'est même pas dans la Bible. » Non, non, ce ne sera pas cela. Car si vous faites ainsi, ce serait faire de cela un. Si je vous disais cela, je serais un faux prophète. Car, voyez-vous, cette parole, tout ce qui est, toute la révélation de Jésus-Christ est pleinement accomplie dans cette parole. Voyez-vous? Et si les 7 sceaux concernaient les 7 églises, cela devrait être déjà passé. Car nous sommes à l'âge de l'église Laodicée. Et les 7 sceaux révéleraient ou révélaient seulement ce qu'ils avaient laissé de côté dans les temps passés, et cela exposa ce qu'ils avaient laissé, ce que Luther a laissé, ce que Wesley a laissé, et tous les réformateurs, et les pentecôtistes, et jusqu'au temps présent. Maintenant, ce qui reste encore, c'est l'enlèvement de l'Église, le retour de Moïse et d'Élie, le règne du millénium sur la terre, avec l'époux, l'épouse et l'époux pendant 1000 ans, et puis le tribunal du jugement, et ensuite une destruction totale du péché. Il n'y en aura plus jamais après cela. Or, les sceaux n'ont jamais mis fin au temps. Le temps ou les saisons continueront jusqu'après le millénium. Non, voyez-vous, le temps sera toujours là jusqu'après le millénium. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Non, le temps que la Bible assigne à une génération est 40 ans. Mais la Bible dit, elles vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera donc 1000 ans sur la terre. Parce que 1000 ans sur la terre, pris sous forme de parabole, sont semblables pour Dieu à un jour. 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour devant Dieu, selon la manière dont Dieu compte le temps. Combien comprennent cela maintenant? Ainsi, c'est ce jour de sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché, et Satan est lié pour un peu de temps, pour 1000 ans, parce que ses sujets sont tous en enfer. Et c'est... L'église qui se trouve sur la terre est rachetée et dans la présence même de Christ. Ainsi, Satan n'aura rien sur quoi agir. Ainsi, ce ne sera pas une chaîne, comme je disais, une chaîne habituelle, ce sera une chaîne de circonstances. Il ne pourra rien faire. Il sera réduit à l'impuissance et sans espoir, attendant simplement la résurrection des sujets. Alors, ils seront séparés comme les brebis d'avec les boucs. La reine de Séba ne vint-elle pas vers Salomon pour l'éprouver, afin de découvrir elle-même si le nom du Seigneur était réellement Salomon ou non? Je crois que je ne comprends pas cela. Attendez une minute. La reine de Séba ne vint-elle pas vers Salomon pour l'éprouver, afin de découvrir elle-même si le nom du Seigneur était réellement Salomon ou non? Je ne comprends peut-être pas cette question. Excusez-moi, juste un instant. Laissez-moi la relire. La reine de Séba ne vint-elle pas vers Salomon pour l'éprouver, afin de découvrir elle-même si le nom du Seigneur était réellement Salomon ou non? Non, elle ne l'a jamais prouvé pour découvrir si le nom de Dieu était Salomon. Salomon était un roi. Elle est venue et elle a dit, « Vraiment, Dieu est avec son roi et avec son peuple. » Voyez-vous, elle est venue et elle a éprouvé le don de Salomon parce qu'elle avait des choses dans son cœur que Salomon lui a révélées. Et cela montrait qu'il était le roi de Dieu sur terre. Vous souvenez-vous là-bas, je crois, d'où elle venait au pays de Séba, d'où elle venait? Les gens passaient, vous savez, et parlaient des grandes choses qui se passaient, disant qu'ils avaient un Dieu là-haut qui avait oint leur roi, et comment leur roi était oint de Dieu. Je ne crois pas qu'elle ait pensé que le nom de Salomon ou que le nom de Dieu était Salomon, car s'il avait fait ainsi, cela aurait à nouveau fait d'elle une païenne. Voyez-vous, ainsi, elle aurait pu faire cela. Dans son cœur, elle aurait pu penser que Dieu était Salomon, que Salomon était Dieu, car elle était une païenne pour commencer. Mais lorsque Salomon lui révéla le secret de son cœur, par un don de discernement, qui à ce moment-là était appelé sagesse, et il discerna cela, elle sut alors que Dieu était avec Salomon, car elle découvrit s'il était venu en pensant cela, si la personne ici, celle qui pose la question, demande, savait-elle à ce moment-là que Salomon réellement, que le nom du Seigneur était réellement Salomon? Voyez-vous, Salomon n'était pas le Seigneur. Elle s'est rendue compte de cela par le peuple, car ils adoraient Jéhovah. Il y avait la grande arche, et le grand testament, l'arche dans laquelle se trouvaient les commandements du Seigneur. Elle lui en parlait du mont Sinaï, et différents endroits où ils avaient été. Et alors, elle put voir que Dieu, que le Dieu de ce testament était dans cet homme, parce qu'il avait le discernement qui appartenait seulement à Dieu. Voyez-vous, ainsi, elle sut que Dieu était dans Salomon. Or maintenant, cela pourrait se lire ainsi si celui qui pose la question demande cela. Mais savait-elle que le nom du Seigneur était réellement Salomon? Peut-être qu'ils n'ont pas écrit exactement comme ils le pensaient. Voyez-vous, ainsi je pense que peut-être il disait ceci, ou dirait ceci, que le Seigneur était dans Salomon. Oui, certainement qu'il était. Si c'est cette question, certainement. Elle reconnut Dieu puisqu'elle remarqua cela. Et elle ne voulait adorer aucun autre Dieu. Et je crois qu'elle a dit que toujours, elle a vu pourquoi il n'y eut plus de souffle en elle. Il n'y eut plus de questions dans son esprit. Salomon révéla simplement tout, et elle sut que Dieu était avec lui. Nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Était-ce faux? Oui, c'était faux pour vous de faire cette chose. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Mais étant donné que vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous faites vœu l'un à l'autre, lorsque vous promettez l'un à l'autre que vous allez vous épouser. Le juge de paix pourrait vous donner une autorisation qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme, sans vivre dans le concubinage. Mais lorsque vous promettez à cette fille, et que vous promettez à cet homme, que vous allez lui être fidèle, et que vous allez l'épouser, à ce moment-là, vous êtes marié. Vous vous souvenez que j'ai expliqué cela la semaine dernière, je crois. Voyez-vous, c'est lorsque vous le lui promettez, voyez-vous, même dans l'ancienne Bible, si un homme était fiancé à une jeune fille, et vous connaissez les lois là-dessus, eh bien, c'était exactement la même chose qu'un adultère, certainement. Lorsqu'il le promettait, ça y était. La question fut posée l'autre jour. Une annulation de mariage était la même chose qu'un divorce. Voyez-vous, Lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait. J'ai beaucoup d'amis qui se trouvent ici, qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Avez-vous réalisé que je parle à mon propre fils, Billy Paul? Est-ce que j'épargnerai Billy Paul? Certes non. Billy Paul se maria à une certaine jeune fille. Elle vint vers moi disant, « Papa, je vais me marier. » J'étais en train de laver ma voiture. Je dis, « Tu dis des bêtises. » Et je continuais tout simplement à laver ma voiture. Il dit, « Je vais me marier. » Je dis, « Oh, allons donc. » Et continuais simplement ma besogne. Il fit demi-tour et elle a raconté cela à sa mère. Et sa mère se moqua de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé courir avec une certaine jeune fille qui allait encore à l'école. Elle s'est mariée. Nous avons annulé le mariage, le père de cette jeune fille et moi-même. Nous avons annulé le mariage, mais n'empêche qu'il était marié. C'est mon garçon qui est assis ici, qui m'écoute en ce moment. C'est exactement cela. Il va vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille. Mon petit-fils, il dit, « Papa, veux-tu me marier ?» Je répondis, « En aucune façon. » C'est mon propre fils. Ne pensez-vous pas que cela me fend le cœur quand je pense que je l'ai porté dans mes bras et que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui et que j'étais à la fois un père et une mère pour lui? Vous pensez que cela ne me rend pas malade de dire cela? Mais c'est la vérité. Certainement, mon garçon est assis ici qui écoute. Ma bru et mon petit-fils sont assis ici en ce moment même. Mais je lui dis que c'est mal. Voyez-vous, parce que je dois le faire. Je suis lié à cette parole. Je dis donc, avez-vous été marié par un magistrat? Vous auriez dû être marié par l'Église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Mais étant donné que vous avez déjà fait cette promesse et ce vœu, et que vous avez été marié il y a 21 ans, je pense que c'est en ordre. Vous dites, eh bien la question pourrait être, devrais-je venir me marier à nouveau, si vous le désirez? N'ayez rien dans l'esprit qui gêne votre foi, parce que s'il y a là quoi que ce soit, vous ne pouvez pas aller plus loin que là. Vous vous arrêtez juste là. Lorsque ce point d'interrogation vient, c'est à cet endroit-là que vous arrêtez, là même. Mais maintenant, d'après moi, ce serait en ordre. L'homme qui m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ m'a finalement mis à la porte de l'Église, parce que je n'étais pas d'accord avec lui à propos des femmes prédicateurs. Eh bien, cela ne m'a pas incité à me faire rebaptiser, voyez-vous, certainement pas, voyez-vous, c'est en ordre. Mais souvenez-vous simplement, ces choses me fendent le cœur. J'ai des amis d'enfance qui sont assis ici, hommes et femmes, qui s'arracheraient les yeux pour me les donner, si je le leur demandais. Oui, monsieur, elles ont été mariées 2 fois, quelquefois 3 fois. Ils sont assis ici en ce moment même. Et mon propre fils, mon propre petit-fils, ma petite-fille que j'aime. Regardez, Billy, combien je me suis tenu à ses côtés, et combien il s'est tenu à mes côtés. Mais lorsqu'on doit dire la vérité, ce doit être la pure vérité. Je pourrais sortir ici, aujourd'hui, et appeler certaines de ces assemblées de Dieu, ou certaines de ces personnes et leur dire, « J'avais complètement tort, je ne vais pas rester avec cette parole, je vais rester avec vous. » Je serai certainement vite une personne très populaire, avec un don de Dieu. Pour apporter toute mon influence à l'une de ces organisations, j'aurai certainement un grand nom parmi eux. Je ne me soucie pas de mon nom parmi eux. Je les aime, c'est la vérité, mais je dois être véridique. Je serais un hypocrite si je faisais cela. Et je serais un hypocrite si je me tenais ici et que je disais, parce que mon propre fils qui se trouve ici, qui était fiancé à cette jeune fille, même s'il n'avait jamais eu de cérémonie pour lui, peu importe si même il a vécu avec la jeune femme, ou qu'il ait couché avec elle, ou quoi que ce soit, lorsqu'il fit cette promesse, il était marié, Billy Paul ou un autre. C'est tout à fait vrai. Il était marié lorsqu'il a fait cette promesse. Si c'était moi, il en serait de même. Nous devons être honnêtes. Si je ne peux pas être honnête avec mon garçon, je ne peux pas être honnête avec vous. Si je ne suis pas honnête avec vous, je ne serai pas honnête avec Dieu. Et je désire que vous croyiez que ce que je dis est mon opinion sincère. Ne faites pas dire autre chose à cela. Dites-le simplement de la façon dont je l'ai dit. Voyez-vous, parce que je vais vous dire la vérité. Maintenant, je ne parle pas avec vous tous de cette manière très souvent, parce que vous êtes mes enfants, comme je vous appelle. Je vous ai engendrés pour Christ par l'Évangile. Et tandis que nous sommes ici ensemble, qu'il y a seulement notre propre groupe qui se trouve ici, je vous secoue un peu, mais je désire vous dire ceci, que vous viendrez à moi pour me demander quoi que ce soit, je vais vous répondre au mieux de ma connaissance. Si c'est dans la Bible, peu m'importe si cela me condamne, il y a beaucoup de choses dont je dois me débarrasser, parfaitement. Mais lorsque vous me demanderez quoi que ce soit, je vous dirai la vérité. Si je vous dis quelque chose, je vous dirai la vérité. J'ai toujours essayé de vivre ainsi. C'est ainsi que je veux vivre, c'est ainsi que je veux mourir, être honnête avec n'importe qui. Une jeune fille vint vers moi, il n'y a pas longtemps. La femme n'est pas ici maintenant. Tom Simpson, beaucoup d'entre vous le connaissent. Tom est un gentil garçon. Aucun de ses parents ne se trouve ici. Je pense que tous ses parents sont repartis, à moins que Fred soit toujours ici. Fred Sussman, je ne sais pas s'il est encore ici ou non, mais je pense qu'ils le sont. Mais Tom Simpson, il est descendu du Canada avec Fred. Et il, vous connaissez frère Fred, notre administrateur. Et frère Tom, beaucoup d'entre vous le connaissent ici. Et Tom est un homme remarquable, c'est un homme admirable, et de même que Madame Simpson. Si elle écoutait seulement ce que je lui dis, elle marcherait à nouveau aussi. Et elle est assise paralysée dans ce fauteuil roulant. Elle va marcher, si elle fait simplement ce qui lui a été dit de faire. Et observez simplement, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Voyez-vous? Bien. Mais elle doit faire ce qui lui a été dit de faire si elle s'attend à marcher. Et une de ces petites filles, de ces gentilles petites filles, lorsqu'elles étaient toutes petites, je les prenais sur mes genoux et je jouais avec elles. Elles sont trop grandes maintenant, ce sont presque des femmes, elles ont entre 10 et 12 ans. Et ainsi, l'une d'entre elles va vers moi et dit, « Frère Branham, j'ai eu un songe. » Elle me raconta le songe et elle dit, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Je dis, « Je ne sais pas, ma chérie, je vais prier et si le Seigneur me le révèle, je te le dirai. » Elle dit, « Très bien. » Quelques jours après, elle revint en disant, « Comprenez-vous ce songe ?» Je dis, « Non, ma chérie, je ne le comprends pas. Il ne me l'a pas révélé. » Environ une ou deux semaines plus tard, elle revint en disant, « Frère Branham, qu'en est-il de ce songe ?» Je répondis, « Je ne sais pas. » Eh bien, il semblait qu'elle avait l'air quelque peu désappointée. Souvenez-vous que lorsque vous me demandez de vous dire quelque chose et que je ne le reçois pas du Seigneur, je suis aussi désappointé. Mais je ne vais pas être un hypocrite ou un menteur. Je vais vous dire la vérité. S'il me parle, je vous le dirai. Sinon, je ne le ferai pas. C'est tout ce que je peux faire. Et je veux que vous croyez, vous me croyez ainsi. Et maintenant, dans mon esprit, je pensais que je connaissais ce que ce songe signifiait. Mais comment savoir? Il faut que je voie à nouveau la chose. Et aucun d'entre vous ne peut poser son doigt sur quelque moment ou quelque endroit où je vous aurais donné l'interprétation d'un songe au nom du Seigneur sans que ce soit exactement comme cela. Oui, monsieur, jamais aussi je ne vous ai dit quoi que ce soit dans le nom du Seigneur qui ne se soit accompli. Juste comme cela, parce que je suis, c'est lui, donc ce n'est plus ma responsabilité à ce moment-là, c'est lui, c'est sa responsabilité. J'ai dit, regarde, Trudy, qu'en serait-il si on allait en Arizona et que je venais te raconter que lorsque tu arriverais là-bas, ainsi dit le Seigneur, ton petit frère va... Le petit Johnny, celui que je taquine parce qu'il a toujours un creux à l'estomac. J'ai dit, qu'en serait-il s'il se faisait écraser dans la rue et que je dise, tu sais ce qui va arriver, il va se faire écraser dans la rue. Et que tu viennes vers moi et que tu dises, frère Branham, ou plutôt, amenez-le à frère Branham. Puis tu vas partir à ma recherche dans les environs et tu me trouveras debout sur les marches d'un escalier en train de parler à un homme vêtu d'un complet blanc. Ensuite, je vais simplement poser les mains au petit Johnny. Il va revenir à la vie et se mettre à courir. Maintenant disons, ensuite tu t'en vas à l'ouest. Et voici qu'un jour, subitement, tu entends ta mère crier, ton père crier, et tu regardes, et le petit Johnny a été écrasé. Que ferais-tu? Voyez-vous, vous me croyez, voyez-vous, et je désire que vous ayez confiance en moi, et je ne vais pas vous dire quelque chose qui est simplement présumé. Je vais vous dire la vérité, ou alors je ne vous dirai rien du tout. Et j'ai dit, alors tu es venu vers moi, tu as dit, oh petit Johnny, ou tu es venu vers ta mère. Oh, le petit Johnny est écrasé, il est mort, il est mort. Le docteur vient, entre-ouvre ses paupières, lui auscute le cœur, contrôle sa respiration, il est mort. Amenez-le à la morgue. Que ferais-tu? Tu vas dire, attendez juste une minute, attendez juste une minute. Amenez-le dans mes bras, mettons-nous à marcher, amen. Où vas-tu, Trudy? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dans les bras? Tu as ton petit frère mort dans les bras. Tu continues simplement à descendre la rue. Les gens disent, est-ce que cette petite fille est folle? Non, monsieur, elle a le « ainsi dit le Seigneur ». Que va-t-il arriver? Tout de suite, tu dis à ton père et à ta mère, « Attendez, nous allons trouver frère Branham. » Il sera debout sur les marches d'un escalier en train de parler à un homme vêtu d'un complet blanc. Et le voilà qui se tient justement là. Observez ce qui va se produire. Il n'y a aucun doute dans ton esprit. Tu t'avances et tu dis, « Frère Branham, vous savez ce que vous m'avez dit? » Oui, Trudy. « Johnny, réveille-toi. » Puis voilà qu'il saute sur ses pieds et descend la rue. Mais qu'en serait-il si je vous racontais simplement, présumant certaines choses que je pense être justes, et que je vous dise de cette façon, ainsi dit le Seigneur, et que cela ne soit pas juste, et que cela n'arrive pas, que cela ne s'accomplisse jamais, alors vous auriez une peur bleue pour le petit garçon. Vous ne sauriez pas s'il faut l'amener ou non. Dieu m'a envoyé ici pour vous aider, et je désirais être une aide pour vous. Et peu importe si cela fait mal, si cela blesse ou quoi que ce soit, je dois le dire de toute façon. Mais maintenant, pour ce qui est de mariage et divorce, je vous ai demandé en tant que frère de rester tranquille jusqu'à ce que vous ayez de mes nouvelles. Entendu? Continuez simplement à vivre comme auparavant. Je passe trop de temps là-dessus. Nous étions mariés il y a 21 ans, oui, juge de paix. Chère sœur, cher frère, une fois un vendeur m'a raconté qu'il est entré, c'était un chrétien, dans une église du Connecticut, ou quelque part là-haut, une très grande église. Il était simplement entré pour prier. ce n'était pas, c'était un pentecôtiste, mais il est entré là pour prier. Et il dit que lorsqu'il est entré là et qu'il s'est agenouillé dans l'église pour prier, il était en voyage, dit-il. Il était fatigué. Il avait comme le mal du pays. C'était un vendeur et il vendait de la marchandise, dit-il, aux fabriques. Et il entra là pour faire quelques ventes ou quelque chose ainsi. Puis il passa près de l'église en pensant, « Je vais aller, je crois que je vais entrer pour prier. » La porte était ouverte, il entra, dit-il, il n'entendit personne. Ainsi il s'agenouilla et commença à prier. Après qu'il eut prié là, être resté environ une heure, dit-il, il entendit claquer une porte ou quelque chose. Il pensa que c'était un gardien ou quelqu'un de l'église. Il dit qu'après quelques instants, il vit venir, il entendit quelqu'un parler. Il se redressa, regarda, et le regarda autour de lui pour voir si c'était le gardien. C'était un homme et une femme qui se tenaient devant l'autel, la main dans la main. Et l'homme dit, « Je te prends ma chérie comme épouse légitime. » Voyez-vous, elle dit, « Je te prends mon chéri comme époux légitime. » Eh bien, dit-il, c'est une chose étrange. Ce pentecôtiste dit, « Cet homme et cette femme se marient sans prédicateur. » Voyez-vous, ainsi il s'assit simplement et attendit. Et après qu'ils eurent fait leurs vœux de fidélité l'un à l'autre, que seulement la mort les séparerait, ils mirent leurs bras l'un autour de l'autre, échangèrent un baiser, firent demi-tour et sortirent en souriant. Il dit, juste un instant, il dit, je suis un peu curieux, je suis étranger. Il dit, vous êtes en train de vous marier? L'homme répondit, oui. Sans prédicateur? Il répondit, non. Il dit, nous sommes mariés depuis 40 ans. Il dit, nous avons été mariés ici à cet hôtel il y a 40 ans. Et chaque année, nous revenons et nous renouvelons nos vœux. C'est une bonne idée, voyez-vous. Mais pour ce qui est d'être mariée, quand vous lui promettez, elle accepte votre parole. Vous acceptez sa parole, et Dieu accepte votre parole à tous les deux. Voyez-vous, ainsi ne promettez pas à moi. Lorsqu'il la coupe sur, est-ce long, est-ce une longue chevelure, lorsqu'il la coupe sur le front. Maintenant, attendez une minute, laissez-moi comprendre ceci. Est-ce une longue chevelure lorsqu'il... Eh bien, peut-être qu'ils veulent dire ceci. Est-ce que les cheveux sont toujours longs lorsqu'ils les coupent sur le front? Ils ne le sont plus, ils les ont coupés, voyez-vous. C'est comme l'homme qui coupe ses pantalons 3 fois et sont toujours trop courts. Comment? Que dites-vous? Oh, c'est de cela qu'il parle. Comme je taquine ma petite fille, elle disait, je les appelle les booms, vous savez, les franges, ou quoi que ce soit, vous savez, en travers du front ici. Eh bien, j'imagine que ces enfants qui coupent leurs cheveux sur le front... Peut-être que votre mère pourrait vous parler à propos de cela, voyez-vous, si elle désire que vous fassiez ainsi. Je pense que cela ressemblerait un peu à une femme qui regarderait au travers d'un rétroviseur. Si elle a passé 25 ans et qu'elle désire les couper sur le front comme cela, pour avoir l'air d'une petite fille. Regardez ici où vous allez, sœur, et non pas où vous avez été, voyez-vous. Et maintenant, mais pour ce qui est de couper les cheveux, je vous dirai ceci. Je n'ai aucun verset pour dire que vous pouvez en couper une certaine partie et pas le reste. Je n'ai pas de verset pour cela. Je ne pourrais vous dire cela, sœur, ou frère, ou qui que vous soyez. Je dis une chose, je désirerais, maintenant je sais que mes enfants ont aussi fait cela, Rebecca et Sarah. J'ai vu lorsqu'elles ont coupé leurs cheveux ici sur le front, et qu'elles ont tressé là en arrière, et qu'elles font ces choses en travers du front comme ceci. Mais je ne... Voyez-vous, non monsieur, quant à moi, je souhaiterais qu'elles n'aient même pas du tout passé les ciseaux dans leur chevelure. Mais lorsque tout est long et tombe comme ceci, et que vous coupez juste devant pour dégager les yeux, chez des petits-enfants peut-être, je ne saurais dire si c'est faux, mais je ne le pense pas, voyez-vous. Mais lorsque vous devenez, si vous pouvez, pour vos sœurs, je les laisserai telles que le Seigneur les a fait, voyez-vous. Et bien entendu, je sais que les femmes désirent paraître jolies, c'est naturel, et c'est ce qu'elles devraient faire, voyez-vous, elles devraient être ainsi. Et ainsi c'est bien, mais autrement, ne ressemblez pas au monde, voyez-vous, ne suivez pas l'exemple du monde. Des choses fausses, vous désirez les couper ainsi, mais maintenant, ne coupez pas votre chevelure. Si vous avez des tresses ou quoi que ce soit, laissez votre chevelure longue. Ne la coupez pas de manière à ressembler au monde. Si vous laissez simplement ces petites filles, mon oncle avait une petite fille là-bas à New York, elle avait la plus belle des chevelures. C'est une sorte de brun foncé, elle porte ses nattes. Ma mère était capable de... Ses nattes lui allaient jusqu'ici en arrière des genoux. Et cette petite fille avait des nattes comme cela aussi. Son nom était Jacqueline. Elle avait peigné une partie de sa chevelure comme ceci. Elle avait coupé comme ceci. Et maintenant, cela fait à peu près 15, 18 ou 20 ans. Et je me demandais pourquoi n'avait-elle pas simplement peigné tout en arrière. Cela aurait été plus joli que de l'avoir juste comme ceci. Coupé ici comme ces Beatles modernes qu'ils ont de nos jours. Vous savez, oh c'est vrai, je ne crois pas que je le ferais. Tout ce qui ressemble à ces Beatles, tout ce qui semble venir du monde, ne vous en occupez pas. Oui. Mon mari et moi ne voyons pas de la même façon la Bible, les vérités. comme cette vérité que vous prêchez. Il ne comprend pas. Devrais-je aller avec lui dans les églises alors que je ne crois pas leur enseignement? Je suis très troublé à ce sujet. Oui, si vous êtes sa femme et qu'il ne vous condamne pas, vous ne devez pas le condamner, voyez-vous, parce que le mari est sanctifié par la femme, voyez-vous, et je crois que s'il va à une certaine église dénominationnelle ou quelque chose comme cela, et qu'il désire que vous alliez là avec lui, voyez-vous, si vous n'êtes pas, voyez-vous, il n'y a là rien qui puisse vous nuire, parce que de toute façon, vous n'allez pas écouter ce qu'ils disent, parce que vous avez dit ici que vous ne croyez pas à leur prédication, voyez-vous, ainsi, cela ne va pas vous faire de tort, mais vous montrez simplement du respect à l'égard de votre mari. Vous vous soumettez à lui, et peut-être qu'en faisant ainsi, vous, s'ils enseignent et font les choses là-bas, vous êtes enseigné dans des choses beaucoup plus élevées que celles-là, vous serez salé. Il le verra et viendra au Seigneur. Je crois que j'irai de l'avant. Mon Dieu, regardez quelle heure il est. Est-ce que Zacharie 4 et Apocalypse 11, 3 à 12 parlent du même personnage? Voyez Zacharie 4, 12 à 14 et Apocalypse 11, 4. Ils ont ajouté leur signature à cela, un frère et une sœur de l'église ici. Voyons, Zacharie 4. Oh oui, ce sont les deux oliviers. Oui, les deux oliviers et Apocalypse 11 sont... Oh oui, c'est cela, c'est la même chose. Ce sont eux dans les deux passages. C'est Moïse et Élie, les deux oliviers. Priez pour notre... C'est une requête de prière. Je regrette, ceci ne peut pas être lu devant... C'est au sujet de relations de famille. Oui, mettez cela avec celle-ci là-bas. Je ne puis lire cela en public. Ils vont avoir un entretien privé de toute façon. Ainsi, Frère Branham, Espo de travailler le dimanche. Je viens juste d'expliquer cela. Si le bœuf est tombé dans le fossé, retirez-le, mais ne le poussez pas dans le fossé simplement pour le retirer le dimanche. Frère Branham, prêcherez-vous ici dimanche prochain? C'est juste une question. Non, frère, non, sœur. Qui que vous soyez, maintenant, ces questions ont simplement été posées ici. J'ai dû les déposer ou quelqu'un les a mises dans le paquet. Frère, c'est pour vous, frère Caps. Chanterez-vous le cantique « Nous ne vieillirons jamais ». Je dois avoir touché au... J'en ai quelques-unes parmi les autres qui sont mélangées. Frère Branham, quelqu'un désire savoir pourquoi vous n'étiez pas mentionné dans la Bible. Je crois que vous êtes Habacuc 2, 1 à 4. Cherchez cela, Frère Neville. Habacuc 2, 1 à 4. Qu'il lit ceci et qu'il l'étudie. Troisième chapitre. Je pense au nom et au titre de quatre chapitres. Et je crois que c'est vous. Maintenant, pendant qu'il cherche cela, c'est Habacuc 2, 1 à 4. Frère ou sœur, qui que ce soit qui a posé la question, il n'y a pas de nom, c'est bien. J'aime que vous demandiez ces choses. Je sais ce qui est sur votre cœur, voyez-vous, et alors je vous le dirai. Non, voyez-vous, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez votre nom dans la Bible, voyez-vous. Mais du moment que vous êtes dans la Bible, là, du moment que vous êtes en Christ, vous êtes dans la Bible. Vous êtes en lui, voyez-vous, dans la Bible. Voyez-vous, du moment que vous êtes en Christ, alors vous êtes dans la plénitude de la Bible. Voyez-vous, vous êtes tout à fait dans votre position lorsque vous êtes en Christ. Tous comprennent cela? L'avez-vous, Frère Neville? Quoi? Oui? Habacuc? Je ne l'ai pas lu. Ceci a seulement été mis là-dedans, je pense, ce matin. Habacuc 2, 1 à 4, c'est ça. Habacuc 2, 1 à 4. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Voici son âme, enflée d'orgueil, n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Eh bien... J'imaginerais que cette chère personne qui a demandé ceci, voyez-vous, c'est quelqu'un qui m'aime, ou il n'aurait pas écrit cela, voyez-vous. Maintenant, je ne pourrais pas dire que la Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez, mais nous sommes en lui de toute façon.
Et maintenant, vous voyez des endroits familiers dans la Bible qui se réfèrent à quitter certaines choses. Voyez-vous, maintenant, si vous observez, l'histoire se répète dans la Bible. Voyez-vous, maintenant, dedans juste au moins un verset. J'en vois beaucoup parmi vous qui les notent. Maintenant, dans le 3e chapitre de Matthieu, il est dit, « Et lorsque Dieu appela son fils hors d'Égypte, afin que s'accomplit ce qui était annoncé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Maintenant, si vous avez une Scofield ou n'importe quelle autre Bible avec référence et que vous regardiez cette référence parallèle, cela vous renverra là où il appela Jacob, Israël, hors d'Égypte. Voyez-vous? Mais Jacob était son fils qu'il appela hors d'Égypte. Jésus aussi était son fils qu'il appela hors d'Égypte. Ainsi, voyez-vous, la parole de Dieu ne se termine jamais. Voyez-vous, nous sommes identifiés dans la Bible avec différents. Combien se souviennent de mon message sur s'identifier à des personnages chrétiens à Phoenix, Arizona, où je l'ai prêché? Oui, beaucoup d'entre vous le possèdent sûrement. Voyez-vous, identifier à des personnages chrétiens. Voyez-vous, vous pouvez vous identifier où vous désirez dans l'Écriture si vous êtes un chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vous identifier dans la Bible. Voyez-vous, ainsi je pense que peut-être cela vous aiderait. Je désire en prendre autant que je peux parmi celles-ci. Frère Branham, certains disent que le temps de la grâce est terminé et que personne ne peut être sauvé. Est-ce vrai? Je suis heureux d'avoir cette question. Nous observons et prions. Nous observons les lignes de prière et il semble que certains trouvent encore la grâce, ou trouvent encore grâce. Maintenant, c'est la première question. Vous en avez deux. Est-ce que le temps de la grâce est terminé? Ne pensez jamais cela. Voyez-vous, continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Voyez-vous, nous remarquons dans la ligne de prière que certains trouvent grâce. Certainement, les portes de la grâce sont ouvertes. Voyez-vous, je pense que ce qui vous a donné cette pensée peut reposer dans... Voyez-vous, je n'ai pas le temps de mettre chacun de ces versets à sa place exacte. Voyez-vous, à chacune de ces choses, la place y convienne. Dans la ligne de prière, vous trouvez grâce, certainement. Si je savais que Jésus venait cet après-midi, je ferais simplement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Voyez-vous, je continuerais simplement. Les portes de la grâce sont toujours ouvertes, voyez-vous? Et maintenant, là où je pense que vous avez mal compris cela, ou vous avez compris cela, c'est lorsqu'il est question de la fin des sept âges de l'Église et des sept sceaux qui sont brisés. Voyez-vous, les sept sceaux, cela a manifesté ce qui se produit, ce qui s'est produit. Le septième âge de l'Église, nous sommes à la fin du septième âge de l'Église. Lorsque je dis la fin, ça ne veut pas dire que c'est cette heure même, cette minute même. Souvenez-vous, la Bible disait, au temps du Seigneur Jésus, Paul disait, « Car le temps est proche. » Réalisez-vous ce que cela faisait dans le temps de Dieu? C'était hier. Selon mon temps, cela a fait 2000 ans. Voyez-vous, le temps est proche. Voyez-vous, ce que Dieu appelle proche n'est pas ce que nous appelons proche. Voyez-vous, ainsi continuez simplement à croire, continuez à prier, continuez à... Dieu tient toujours les portes de la grâce ouvertes. Continuez simplement à y entrer aussi vite que vous pouvez. Dieu arrêtera cela lorsque ce sera le temps. Voyez-vous? Maintenant, frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vu votre... Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez cela si ceux-ci ne devaient pas, s'ils ne devaient pas prêcher. Miséricorde, frères, sœurs, qui que ce soit qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un pauvre sujet pour Dieu avec tout cela. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin tout autour du monde pour prêcher l'Évangile. Voyez-vous, je suis simplement un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez-vous, ainsi il y en a beaucoup qui sont plus acceptables, plus dignes, plus aptes en toutes choses que moi pour prêcher. Je suis simplement une humble petite personne qui est placée ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Voyez-vous, ainsi cela est simplement, vous savez ce que je veux dire. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'Évangile. Amen. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher en prenant autant que je peux. J'ai formulé une question, mais l'ai posée de façon incorrecte. Je désire savoir si vous allez avoir un service de guérison avant de quitter la ville. Sinon, avoir une entrevue personnelle avec vous. Maintenant, en passant, je pense que cette personne a eu une entrevue ce matin. Bien entendu, nous avons eu un service de guérison. Nous avons eu un service de guérison aussi. Frère Branham, veuillez expliquer 1 Corinthiens 11 et versets 4 à 6. ceci ne veut-il pas dire, voyons, un voile séparé de la chevelure, ou la longue chevelure est-elle le seul voile dont nous ayons besoin? Trouvez-moi 1 Corinthiens 11, voyons, 1 Corinthiens 11, verset 4. C'est dit qu'en priant, oh oui, ils l'ont ici, ils disent, en priant ou en prophétisant, pouvons-nous mettre nos cheveux, pouvons-nous, voyons, ils ont tiré une ligne à travers quelque chose ici. Lorsque nous prophétisons, pouvons-nous mettre nos cheveux lorsque nous... Vous dites, pouvons-nous mettre nos cheveux ou les enlever lorsque nous prophétisons? Si vous avez un postiche, vous le pouvez, ou une de ces perruques de Beatles, ou quelque chose ainsi, mais si je pouvais avoir l'air correct en en portant un, j'en porterais probablement un moi-même. Pas une perruque de Beatles, mais un postiche. Mais c'est en ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous en désirez un, si vous pouvez le faire, c'est parfaitement en ordre. Oui, monsieur, si pour une femme, sa chevelure n'est pas suffisamment longue, qu'elle désire y ajouter un postiche, je dirais, faites-le, sœur. Si un homme attrape de mauvais rhumes, etc., et qu'il veuille d'une certaine façon, même si c'est pour plaire à sa femme, qu'il désire porter un postiche, qu'il le fasse. Oui, certainement, il n'y a rien de faux à cela, non, monsieur. Pas plus que s'il s'agissait de vos dents, d'un bras artificiel ou de quoi que ce soit d'autre. Si la nature, à certaines, vous a pris quelque chose et que ce soit utile, allez de l'avant, c'est parfaitement en ordre. Mais il est dit ici, pouvons-nous mettre nos cheveux ou les enlever lorsque nous prions ou prophétisons? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Très bien, lisez, frère Neville. Comme de 4 à 6, très bien, très bien. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire s'il a les cheveux longs, très bien. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est son mari. Pense que c'est tout comme s'il était rasé, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle soit aussi rasée. Si elle veut se couper les cheveux, faites-les lui raser complètement. Voyez-vous, si elle ne peut pas avoir, mais si ce n'est pas une honte pour une femme d'être, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je ne vois rien à propos de mettre ou d'enlever des cheveux, là, à moins que la femme désire. Si elle dit qu'elle doit les couper, qu'elle soit rasée complètement, voyez-vous, car sinon qu'elle garde ses cheveux, qu'elle sa chevelure et son voile. Mais pour un homme, d'avoir la tête couverte, les cheveux longs comme une femme, en se tenant ainsi à la chair, il ressemblerait à une femme, là-haut. Voyez-vous, ainsi il ne doit pas avoir sa chevelure comme cela, voyez-vous. Cela signifie qu'ils mettent leurs cheveux et les enlèvent. Je pense que la personne peut s'être trompée en pensant à ce sujet, que cela veut dire qu'un homme prophétise la tête couverte, puis qu'il enlève son voile, voyez-vous. Non. Ce n'est pas qu'il avait une longue chevelure, ça signifie c'est cool vert. Maintenant, lisez juste un peu plus loin. Vous qui avez posé la question et vous découvrirez que le chef de la femme, c'est son mari. Combien ça cela? Et le chef de l'homme, c'est Christ. C'est pourquoi un homme devrait couper ses cheveux à cause de Christ. Parce qu'en lui, il y a à la fois l'homme et la femme, et tout. Il est à la fois père, mère, sœur, frère, il est tout. Mais dans un homme, il y a le masculin seulement. C'est pourquoi il doit couper cela à cause de Christ. Mais dans la femme, se trouve le féminin seulement. Ainsi, elle pourrait avoir son voile, parce que son mari est au-dessus d'elle, il est son seigneur, son souverain, donc c'est pourquoi elle doit avoir les cheveux longs. Et si elle dit qu'elle doit les couper, alors qu'elle soit rasée. Et il est dit, s'il est honteux ou déshonorant pour une femme qui est censée être jolie d'avoir les cheveux rasés, alors qu'elle ait son voile sur la tête, qu'elle ait les cheveux longs. Voyez-vous, ainsi c'est, laisse tout expliquer, je veux dire, est-ce que cela semble satisfaisant? Dites amen, si oui, si vous le comprenez, voyez-vous. Très bien. Frère Branham, nous n'avons plus que 10 minutes maintenant. Frère Branham, nous n'avons pas de prédicateur là où nous habitons, mais nous avons un service de banc de dimanche soir seulement. Devrions-nous amener nos enfants à une autre église pour l'école du dimanche? Les services de banc sont-ils suffisants? Eh bien, cela dépend de la façon dont vos enfants marchent. Voyez-vous, maintenant, si vous prenez vos enfants, qu'ils soient jeunes, et que vous les emmenez dans quelques groupes là-bas, qui leur inculquera simplement des choses qu'ils ne devraient pas savoir, je ne le ferai pas. S'ils semblent apprendre suffisamment des bonnes et des choses et vous, disons que vous les amenez dans une église catholique, que vous les amenez à l'église catholique, que vous les amenez de quelque chose de semblable. Je ne vous conseillerais pas cela, voyez-vous, s'ils, mais maintenant, si vous avez une jolie petite église là-bas, qui est peut-être en désaccord sur deux ou trois choses avec vous, et que vos enfants désirent aller à l'école du dimanche, que ce sont des gens du plein évangile ou quelque chose ainsi, eh bien, c'est parfaitement en règle. Mais voyez-vous, lorsque vous venez à un endroit où cela dépend de la manière dont vos enfants acceptent cela, voyez-vous, observez ce que vos enfants font, comment ils réagissent à cela. Voyons. Si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bandes? Oui, ce serait bien. Est-ce que nos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? S'ils voient le message du temps de la fin, ont-ils le Saint-Esprit? Chacun doit avoir une expérience. Vos enfants ne peuvent pas entrer d'une autre manière que celle par laquelle vous êtes entrés. Voyez-vous, il faut qu'ils naissent de nouveau. Il n'y a pas de petits-enfants dans le royaume de Dieu. Ce sont tous des enfants. Ils doivent l'avoir. Ils doivent avoir une expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous. Maintenant, j'espère que je peux comprendre ceci. C'est, chers bien-aimés, voyons, au sujet des versets de Éphésiens 4, 11 à 13. Est-ce que nous tous, voyons, recevons-nous tout le perfectionnement des saints par les bandes, ou devrions-nous être ici, où les dons de l'Esprit opèrent et les différentes fonctions de l'Église pour nous aider à nous perfectionner? Nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. Maintenant, cette personne est de l'Oregon. Maintenant, mon cher, je crois que je sais qui est cette personne. Voyez-vous, c'est... Oh oui, je le sais certainement. Votre garçon, si la personne est ici, je sais que vous êtes, sinon cela a pu être dimanche dernier, voyez-vous, cela a pu venir des questions de dimanche dernier, mais votre fils vole en tant qu'inspecteur des eaux et forêts, voyez-vous, et le contrôle, je pense qu'il est celui qui m'a invité à aller à la chasse à l'orignal avec vous dans l'Oregon, et je pense que c'est cela. Maintenant je connais cette personne par lettre, il désire venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez-vous, nous avons communion les uns avec les autres ici à l'église. Mais le perfectionnement vient entre nous et Dieu. Le sang de Christ est ce qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Maintenant, de l'église dit-il qu'il y a les dons en opération. Or, nous n'avons pas beaucoup de dons en opération ici. Mais nous en avons quelques-uns. Nous avons le don des langues et le don de prophétie, deux ou trois d'entre eux. Je pense au frère Higginbottom ici, où qu'il se trouve, il a le don de parler en langue. Et nous avons notre frère Junior Jackson avec nous, et il parle en langue. Et nous avons deux ou trois qui interprètent. Frère Neville ici aussi, notre pasteur, parle en langue et parfois prophétise. Et le Seigneur fait venir sur lui. Juste l'autre jour, il a dit quelque chose. Il a téléphoné dans une maison où je me trouvais et m'a dit qu'il a prophétisé concernant une personne. Elle leur disait qu'un ivrogne aura un grand changement en lui instantanément, ou quelque chose comme cela. Et l'homme est sorti des alcooliques anonymes, toujours alcoolique, et depuis 68 jours, il n'a même pas touché à de l'alcool, et n'a pris aucun médicament pour cela ou quoi que ce soit. C'était frère Neville prophétisant à leur sujet. Ainsi nous avons certains dons qui opèrent parmi nous, et nous serons très heureux de fraterniser avec n'importe lequel d'entre vous qui a une façon de travailler ou qui désire venir et fraterniser avec nous. Quoi que nous puissions faire, nous sommes très heureux à ce sujet. Voyez-vous, mais maintenant le perfectionnement appartient à Christ. Maintenant, voyons encore une ou deux de plus. Frère Branham, auriez-vous l'amabilité d'expliquer la photographie qui a été prise par frère Arvin Bright? Première question. La deuxième image sur le mur, la lumière autour de vous, la boucle, etc. Eh bien, maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est. Ils ont signé et ne sont pas ici maintenant. Nous le comprenons. C'est frère et sœur Jackson d'Afrique du Sud. Ils sont repartis. Ainsi, nous comprenons cela. Nous l'avons expliqué. Quand l'Église qui est morte durant la tribulation sera-t-elle ressuscitée? Attendront-ils aussi jusqu'à la résurrection des impies? Vivront-ils à nouveau durant le millénium? C'est une bonne question qui mérite plus de temps que je pourrais en donner, mais simplement afin que je puisse arriver. Voyez-vous, j'ai répondu au moins aux deux tiers de ce que j'avais lorsque j'ai commencé ce matin. Cela a pris 2 heures. Il y en a tant que vous ne pouvez tout simplement pas y arriver, voyez-vous, et je désire simplement prendre autant que je peux, ne sachant pas où elle se trouve. Je sais qu'il y en a de très bonnes là-dedans, aussi qui devraient être connues, comme la semence du serpent qui doit être expliquée, et plusieurs choses. Mais je vais me dépêcher et entrer rapidement dans ceci. L'Église qui est morte durant la période de la tribulation, voyez-vous, sera-t-elle dans la résurrection? La seconde résurrection. Attendront-ils aussi jusqu'à la résurrection des impies? Les justes et les injustes seront ressuscités en même temps. Vivront-ils à nouveau durant le millénium? Non. Et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à la fin des 1000 ans. Maintenant, c'est assez court, mais je suis sûr. Que veut dire Paul par l'affranchissement et la liberté en Christ? Qu'est-ce qu'être affranchi de la loi? Eh bien, vous n'êtes pas lié par la loi. Disons par exemple, voici la même chose, je l'explique de la façon naturelle rapidement. Par exemple, ici dans la rue, c'est dit de descendre la rue à 50 km à l'heure. C'est le maximum de vitesse que vous puissiez faire. Très bien. Maintenant, si je descends la rue à 65 km à l'heure, je suis condamné par la loi. Mais si je descends la rue juste à 50 km à l'heure, je ne suis pas sous la loi. Voyez-vous, c'est la liberté en Christ. Voyez-vous, c'est la même chose. Vous n'êtes pas lié par la loi aussi longtemps que si je ne vole pas, ne mens pas, ne fume pas, ne commets point d'adultère, ne fais aucune de ces choses-là, je ne suis lié à aucune loi ou par aucune loi. Voyez-vous, je suis affranchi de la loi, je suis en Christ. Que pensez-vous du contrôle des naissances? J'ai eu un peu de cela dans les entrevues ce matin. J'aimerais plutôt vous parler personnellement là-dessus, voyez-vous, sur ces choses-là, parce qu'il y a des mots et des choses que je dois dire, j'aimerais mieux dire cela si le mari et la femme. Et il y a une possibilité de le faire d'une façon correcte. Je le dirais d'une manière générale. Il y a un certain nombre de jours dans la vie d'une femme où elle n'est pas féconde. Comprenez-vous? Très bien. Maintenant, il arrive parfois que cela tuerait une femme d'avoir un enfant. Si elle avait un bébé, cela la tuerait. Vous voulez faire attention à cela aussi, voyez-vous? Ainsi, soyez très prudent à ce sujet, voyez-vous? Voyez-vous, il s'agit là de donner la vie, et c'est pour cela que vous avez été placé sur la terre. Si votre femme est maladive et qu'un autre enfant la tuerait, je ne ferai pas cela. Et je ne pense pas que le Seigneur veut que vous le fassiez. Et venez me voir personnellement à propos de ces choses. Et là-dessus, une entrevue privée. Laissez-moi vous parler personnellement, voyez-vous. Et je peux sentir, voyez-vous, pour chaque individu, je peux dire s'il me ment ou non. Voyez-vous, il me raconte différentes choses. J'aimerais plutôt vous voir simplement, voyez-vous. Parce que si vous l'exprimez comme ceci, on ne sait pas de quoi il s'agit, vraiment. C'est parce que si c'est traité individuellement, je peux dire s'il raconte la vérité ou non, voyez-vous. Pourquoi Satan sera-t-il délié pour un peu de temps, après les 1000 ans d'Apocalypse 20, verset 3 et Apocalypse 20, verset 7? Pourquoi sera-t-il délié? C'est pour aller rassembler son peuple à la seconde résurrection. Parce que Satan doit subir le jugement aussi, voyez-vous, il doit être condamné. Oh là là, ceci est un livre rempli de questions. Je ne crois pas, il y a une autre lettre qui en est remplie. Laissez-moi en prendre ici quelques-unes, très très rapidement maintenant. Frère Branham, expliquez acte 9, verset 7 et acte 22, verset 9. Voudriez-vous me trouver cela, frère Neville? Vous expliquez acte 9, verset 7. Maintenant, tandis qu'il cherche cela, je verrai si je peux en prendre une autre très rapidement. Commencez-vous à être fatigué? Je sais que vous l'êtes. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Comment cela se passera et où, l'endroit où l'épouse va? Quelle bonne question, n'est-ce pas? C'est très bien comme question. Je me tiendrai ici toute la journée. Juste une minute maintenant. Verset, acte 9, verset 7. Merci, frère Neville. 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Maintenant, je sais où vous voulez en venir, voyez-vous. Maintenant, l'autre endroit, il est dit qu'il dispersa. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est produit là. Je ne peux simplement pas vous dire parce que là, parce qu'à l'autre endroit, ils l'entendirent. Un endroit, ils n'ont pas vu, et à l'autre, ils l'ont vu et n'ont pas entendu. Combien a déjà vu cela auparavant dans la Bible? Je l'ai vu et je ne peux l'expliquer, voyez-vous. Le Seigneur devra me le révéler. Je vous ai dit il y a quelques instants que je devrais être honnête avec vous, voyez-vous. Je ne sais pas, je regrette. Si je ne peux pas l'expliquer, je serai assez honnête pour vous dire que je ne peux pas. Mais je ne l'aborderai pas alors que je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer cela, parce qu'un endroit, il est dit qu'ils ont vu la lumière et n'ont jamais entendu la voix, ou quelque chose comme cela, et l'autre endroit, ils ont entendu la voix et n'ont jamais vu la lumière. Je ne peux expliquer cela, voyez-vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé, et je ne le saurai pas jusqu'à ce que le Seigneur me le révèle. Pas plus que je ne pouvais vous dire, au sujet de mariage et divorce, je ne savais pas jusqu'à ce qu'il me le révèle. Et même ce matin, le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, sait que c'est la vérité. Ce matin, il a terminé toute l'affaire, me parlant au sujet de mariage et divorce. C'est juste. C'est la raison pour laquelle je dis, laissez-moi rassembler tout cela. Cherchez, lorsqu'une de ces choses, comme la semence du serpent, lorsque l'âme était présentée, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais rien voir. Mais j'ai continué à rechercher cela, et tout à coup, alors vous devez aller très loin tout seul. Puis le Saint-Esprit commence à le révéler. Maintenant, je veux que quelqu'un essaie de condamner cela. Voyez-vous, vous ne pouvez pas le faire. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement, voyez-vous. Nos corps, maintenant, disons non. Vous savez ce que je veux dire par cela. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham attendait un fils promis. Qui lui avait été promis, c'est exact. Et l'église attend un fils promis. L'épouse est juste, l'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce exact? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de veine à lait dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi qu'est-elle arrivée, Dieu l'a transformée en une jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham, car il dit que son corps était comme mort. Voyez-vous, elle dut changer leur corps afin de recevoir le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous vivons. Ces corps sont des corps de péché. Cette première conscience contrôle ce corps avec la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et si cela, et cela nous a tout embrouillé, nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est ce quelque chose d'intérieur qui vit, que tous ceux qui le comprennent disent « Amen ». Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure, ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra, mais la partie intérieure de vous, ici, en dedans, à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez-vous, et c'est la personne à partir de laquelle la nouvelle vie commence, à cette nouvelle naissance, et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes, autour de cette vie-là. Comprenez-vous cela? Ainsi, potentiellement, c'est là-dedans. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de là, ceci reflète seulement le négatif. Cela reflètera le positif, la parole. Voyez-vous, et la même chose est, ou plutôt, l'enlèvement des poux sera pareil. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Et la même chose arriva pour Sarah. Avant, lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il devait être changé afin de produire un fils. Comprenez-vous cela? Ce corps-là ne pouvait pas produire cela. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devra être changé de la même façon pour recevoir le fils. Comment cela se passera-t-il et quand? Où va l'épouse? Elle va vers la gloire, dans le ciel, pour le souper des noces, exactement comme le type d'Isaac et de Rebecca. Lorsque Rebecca partit pour rencontrer Isaac, souvenez-vous d'Eliezer, qui représente maintenant le message qui est parti d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il trouva la jolie Rebecca de la fraîcheur du soir, la jeune fille à la peau brune qui sortit avec une cruche à eau. Eliezer pria en disant, « Seigneur Dieu, donne-moi un bon voyage maintenant et du succès pour mon maître Abraham. » Elle dit, « Va, ne la prends pas parmi les Philistins, ne la prends pas là. Il se rend là-bas parmi son peuple, montrant que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, parce que Rebecca et Isaac étaient des cousins. » Et ainsi ils descendirent, et cette jolie Rebecca sortit et puisa l'eau, et il pria, et abreuva le chameau et tout ce qu'il y avait d'autre. Puis vous remarquerez que Rebecca avait, le choix final devait venir de Rebecca. Il demanda la jeune fille au père, il demanda la jeune fille à la mère. Et ni l'un ni l'autre ne pouvait consentir. Il désirait qu'elle reste encore quelque temps. Il dit, « Ne me retardez pas dans mon travail. » Et Rebecca devait faire son choix, parce qu'il dit, « C'est la jeune fille, qu'elle fasse son choix. » Et aussitôt que cela lui fut présenté, rapidement sa résolution fut prise. Elle dit, « J'irai. » Elle monta sur le chameau et partit à la rencontre de, regardez, le chameau même qu'elle abreuva fut le chameau qui la transporta vers son époux et vers le succès. Et le chameau même, la puissance même de cette bête dans la Bible représente la puissance. Et la puissance même à qui nous donnons l'eau et la louange. Amen. Voyez-vous, l'eau, la vie, la louange, la parole est la chose même qui nous transporte dans le pays de la gloire pour rencontrer l'époux. Oui, monsieur. Amen. Attendons la venue de cet heureux jour du millénium, lorsque notre bienheureux Seigneur viendra pour enlever son épouse qui attend. Et souvenez-vous, Isaac avait quitté la tente et se tenait dehors dans les champs méditant, vers la fin de l'après-midi. Amen. Lorsqu'il vit venir Rebecca, elle ne l'avait jamais vu, et lui ne l'avait jamais vu, mais il eut l'amour au premier regard. Elle tomba amoureuse de lui et lui d'elle. Elle était même voilée. Amen. Oh là là. Et regardez, lorsqu'elle le vit, son cœur fut tellement rempli de joie. Elle ne savait pas avec qui elle allait se marier, mais c'était par la foi. Amen. Et souvenez-vous, Jésus quittera le royaume, et nous ne rencontrons pas dans la gloire, nous devons le rencontrer dans les airs, entre les cieux de la terre, là où il y a de l'espace pour nous racheter. Elle rencontrera Rebecca à mi-chemin, entre la maison de celle-ci et sa maison. Amen. Il l'emmena dans sa maison et se maria avec elle, et il devint héritier de tout ce que possédait son père. Amen. Oh, comme c'est parfait. C'est tout simplement parfait. Bon. Question. Dieu sépare-t-il l'homme et la femme dans... Je ferais mieux de ne pas lire celle-ci, voyez-vous. C'est une... Je peux avoir à dire un mot, voyez-vous. Je vous connais tous, mais ceci est enregistré, voyez-vous. Ainsi, je préfère ne pas la lire. C'est quelque chose au sujet de la personne qui a écrit cela. Vous savez ce que c'est. Je préfère vous voir en entrevue privée, voyez-vous. Je préfère ne pas... Je ne pense pas que cela serait réellement bien de lire cela, voyez-vous. Cependant, pour la personne, il n'y a rien de mal à cela. Il pose une question légitime, mais je pense que ce serait mieux pour moi de voir cela en entrevue privée. Ne penseriez-vous pas simplement celui qui... Vous savez qui c'est, qui vous soyez. Oh là là, oh, nous avons déjà dépassé notre temps, ami. Nous ferions mieux d'arrêter et d'aller dîner. Combien de temps désirez-vous que je passe ici? Oh là là, peut-être juste un peu. Si jamais vous devez partir très vite, ne laissez pas brûler votre dîner. Mais si vous, je mangerai probablement là-bas au Blue Boar ou chez Prior ou à l'un de ces endroits. Et ils ne vous importuneront probablement pas. Si vous devez partir, que Dieu vous bénisse, je comprends, voyez-vous. Et je vais simplement prendre environ, je vais poser celle-ci ici et c'est tout ce à quoi je répondrai. Puis cela prendra environ 15 minutes de plus. Puis je vais aller manger. J'ai deux filles mariées à des hommes dans les DEAV. Elles croient ce message. Les dénominations, c'est juste. Elles croient ce message et ont pris position pour lui. Et ont reçu... Que devraient-elles faire? Elles ont reçu de l'opposition. Que devons-nous faire? Gardez votre position, absolument. Montrez vos couleurs. C'est cela. Ne leur cédez pas. Non, monsieur, je ne le dis pas. N'allez pas parmi eux. Ne fraternisez pas ou quelque chose comme cela. Aussi longtemps que vous pouvez fraterniser. Mais lorsqu'ils commencent à changer le menu, vous savez, une colombe ne peut pas manger avec une buse. Frère Branham, voudriez-vous expliquer, s'il vous plaît, Marc 13, 27? Aussi, Frère Branham, qu'en est-il des gens dans Apocalypse 20, 7 et 9? Qui font la guerre aux saints? D'où viennent-ils? Y aura-t-il un transport comme avec la famille de Noé? Apocalypse 13, ou non, Marc 13, 27, frère Neville. Apocalypse 20, vous avez apporté votre Bible, frère Caps. Apocalypse 20, et ça semble être 7 et 9. Je pense que tandis qu'il cherche cela, ici, il y a justement cela. Apocalypse, qu'est-ce que c'était maintenant? Marc 13, 27, 13 et 27. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. De l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Cela parle de la résurrection, de la translation, de l'ascension. Il enverra ses anges pour rassembler. Avez-vous déjà pensé à ce que sont les anges? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les réunira, voyez-vous, les amenant, les ralliant, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. La parole qui était et qui était rendue manifeste sur terre. Voyez-vous, comprenez-vous cela? La parole était prononcée, ici elle est manifestée, voyez-vous? Très bien, frère Caps, voyons un peu. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Très bien, je viens juste expliquer cela, n'est-ce pas? Comment il sera délié de sa prison à la fin des 1000 ans? Très bien. Je n'ai une autre juste ici, juste une minute. Frère Branham, était-ce de Dieu ou cela provenait-il de mes propres façons d'agir lorsque les choses qui sont arrivées, lorsque tentées, était-ce... Voyons si vous pouvez comprendre quelque chose. C'est bien écrit, mais j'ai peu d'instructions. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne pense pas que je peux répondre à cela. Frère Caps ou moi ne pouvons pas comprendre ce qu'il a dit. Était-ce, à moi cela, disons, si c'était une infirmière, quelque chose au sujet des soins, était-ce Dieu lorsque j'ai arrêté de donner des soins ou était-ce ma faute? Je ne saurais vous dire. Je préférerais plutôt m'occuper de cela dans une entrevue privée. Voyez-vous, maintenant, la profession d'infirmière est une chose légitime, simplement comme infirmière. Je dirais, maintenant, la personne, je n'ai pas mis cela de côté simplement pour dire que je ne réponds pas à cela, car cela signifie autant pour cette femme que votre question signifie pour vous. Et la mienne, pour moi, voyez-vous. Mais maintenant, si c'est une infirmière, que vous avez juste quitté votre profession d'infirmière parce que vous avez pensé que vous ne devriez pas travailler, eh bien, je pense que votre travail d'infirmière devrait ressembler davantage à un travail de pitié. Voyez-vous, vous devriez penser à faire quelque chose, comme un docteur. Un docteur qui est un bon docteur aiderait un homme sans tenir compte s'il a un centime ou non. Un vrai docteur, voyez-vous. Et je pense qu'un ministre, n'importe qui, notre service devrait être l'un envers l'autre, parce que c'est de se rendre la vie juste un peu plus agréable l'un envers l'autre. Lorsqu'ils m'ont dit que je devais prendre 100 dollars par semaine de cette église comme salaire, eh bien, cela m'a presque brisé le cœur. Maintenant, Madame Wilson, je sais, et probablement son fils, et ceux qui sont assis ici, se souviennent d'il y a des années. Je prêchais ici 17 ans et n'ai jamais prélevé un centime de ma vie. Le peu d'argent, tout ce que je pouvais gagner, je le mettais là-dedans, voyez-vous. Et lorsqu'ils m'ont dit que je devais le prendre afin d'avoir ces réunions, c'est comme si cela m'avait démoli, voyez-vous. Bien entendu, je crois que c'est en règle, mais simplement pour moi, voyez-vous, je ne désire rien, pas d'argent. La seule chose que je désire, c'est votre amitié et l'approbation de Dieu parmi nous. Je vous aime, voyez-vous, je vous aime, et je désire que vous soyez droit, et je désire être droit moi-même. Et maintenant, je désire que vous me croyez, moi je vous crois. Et si vous venez vers moi avec une question, je désire être honnête avec vous. Et si je vous parle dans le nom du Seigneur, je désire que vous fassiez exactement ce que je vous ai dit de faire. Ne vous en écartez pas le moins du monde. Alors je pense que tout ira bien comme cela, voyez-vous. Et alors les autres? Et ainsi maintenant, c'est question de la profession d'infirmière. Et je pense que si vous avez dans votre cœur d'être une infirmière, tout le monde ne peut pas être une infirmière. Une infirmière est quelqu'un qui est gentil et doux envers les gens. Et oh, je pense qu'une vraie infirmière, si vous avez déjà été malade à l'hôpital ou quelque part, que vous voyez, et que vous voyez une infirmière vraiment gentille qui vient et vous met à l'aise, ou quelque chose comme cela. J'ai une opération pour que t'en m'a tiré dessus cette fois-là. J'ai dû aller à l'hôpital. J'avais une petite infirmière là-bas que j'ai appelée concombre sucré, parce qu'elle avait toujours un concombre dans la bouche. C'était tout le temps ainsi. Elle n'avait qu'environ 14 ans, et on m'avait tiré dessus. Elle était simplement une petite dame de toute façon, elle, ses jambes abîmées, pratiquement les deux étaient déchiquetées comme cela. Elle avait mis un oreiller ici et un oreiller là, et sans cesse elle m'aidait. Et je pensais toujours, j'étais seulement un petit garçon, je pensais que je pourrais l'épouser, parce qu'elle était si aimable et si gentille pour moi. Eh bien vous voyez, cela veut dire quelque chose, voyez-vous, de faire quelque chose. J'aimerais poser une question. Numéro 1. Est-ce qu'un pyjama de femme... Maintenant, attendez une minute. Laissez-moi lire ceci. Non, ça ira. Est-ce qu'un pyjama de femme se classe dans les vêtements d'homme? Eh bien... Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas vous poser des questions brûlantes. Je ne sais pas. Je vais simplement vous laisser décider de cela. Vous ne devriez pas parader devant les gens habillés ainsi, je sais cela. Ainsi, de cette façon, cela serait... Mais pour aller au lit, je ne sais pas. Je vais devoir reconnaître que je ne peux pas non plus répondre à celle-là. Je vous ai dit que je serais honnête si je ne savais pas. Je ne vais pas émettre ma propensée là-dessus. Très bien, à moins que vous désirez ma propensée. Si vous désirez cela, je vais vous dire, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas... Ceci pourrait être un million de kilomètres dans l'erreur. Je pense que ça serait joli de porter une chemise de nuit. Mais c'est simplement vous que cela regarde. Maintenant, je ne peux pas vous dire cela, parce que je ne pourrais pas le défendre. Maintenant, c'est moi, non pas lui. Souvenez-vous, voyez-vous. Est-ce faux de couper les bouts des cheveux d'une femme? Je crois que nous venons juste expliquer cela il y a quelques minutes, voyez-vous, pour les petites, je pense qu'ils appellent ces petites choses qui pendent comme cela. Frère Branham, dans l'une des bandes des sept âges de l'Église, vous avez mentionné que Judas avait été justifié, sanctifié. Ces choses étaient-elles de véritables... Voici une bonne question. Expliquez expérience, de véritables expériences de grâce qu'il a reçues. Vous avez aussi mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie. Et cependant, nous savons qu'il est allé en enfer et qu'il fut perdu. Comment une personne peut-elle avoir son nom dans le livre de vie et cependant être perdue? ou pourquoi Dieu met-il les noms de personnes dans le livre de vie alors qu'il sait qu'ils vont être perdus à la fin? Maintenant, celle-là est bonne, n'est-ce pas? Maintenant, ceci serait bien. Maintenant, je devrais simplement compter sur le Seigneur pour répondre à ceci, car je rôde juste, j'avance juste à tâtons plutôt. Regardez, premièrement, dans nos églises, j'ai mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie. C'est vrai. Maintenant, nous savons cela, car Jésus leur a dit, lorsqu'ils furent tous envoyés, Matthieu 10, pour chasser les démons, pour prêcher l'évangile, qu'ils avaient reçu gratuitement et devaient donner gratuitement, et sont revenus en se réjouissant parce que les démons leur étaient soumis. Est-ce exact? Et Jésus leur dit, et il appela leur nom, ceux qui étaient là et qui furent envoyés. Et ils revinrent, et Judas Iscariote, lequel aussi l'a trahi. Voyez-vous, ils sont revenus en se réjouissant parce que les démons leur étaient soumis. Maintenant, voyez-vous, l'attitude était fausse là. Voyez-vous, vous ne devez pas vous réjouir parce que j'ai reçu le pouvoir de faire sortir un démon. Voyez-vous, vous ne devez pas faire cela. Vous devez vous réjouir parce que vous avez même reçu suffisamment de grâce pour être sauvé. Voyez-vous, vous ne devez pas vous réjouir. C'est ainsi que les gens, habituellement les gens qui ont des dons, sont des gens qui ne veulent pas de dons. Voyez-vous, Paul essayait de fuir la chose, et Moïse de même. De grands conducteurs comme cela essayent de fuir la tâche. Ils savent ce qui est placé devant eux. Dieu, voyez-vous, si vous prenez un homme qui dit toujours, « Oh Seigneur, remplis-moi de puissance et je partirai là-bas et je chasserai les démons. » Il ne le ferait jamais. Dieu a mieux à faire que de faire confiance à quelqu'un comme cela, voyez-vous. Il ne le ferait jamais. C'est cet homme qui ne veut rien avoir à faire avec cela, voyez-vous. C'est l'homme que Dieu peut prendre et lui enseigner quelque chose un jour, voyez-vous. Ainsi, à ce moment-là, Judas est revenu en se réjouissant. Eux tous, dont les noms, il dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Maintenant, si vous remarquez, et prenez Daniel aussi, voyez-vous, parce que votre nom est dans le livre de vie, parce qu'il est au ciel, votre nom a été reconnu, cela cependant ne signifie pas que vous êtes sauvé. Voyez-vous, vous n'êtes pas converti jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Souvenez-vous de cela, vous êtes seulement potentiellement converti. Voyez-vous, vous n'êtes pas, si vous me demandez un chêne et que je vous donne un gland, potentiellement vous avez un chêne, potentiellement, mais il n'est pas encore développé. C'est la raison pour laquelle je crois dans la sécurité de la façon dont je le crois. Si je demande un champ de maïs et que je vois du maïs à peu près comme ça haut, potentiellement j'ai un champ de maïs. Ce n'est pas encore développé. Quelque chose pourrait se produire, voyez-vous. Maintenant, vous êtes sur le chemin de la justification, de la sanctification vers le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans le royaume. Maintenant, vous dites, frère Branham, est-ce ceci? Est-ce vrai? Je n'ai pas le temps maintenant de vous donner de versets, mais vous regarderez simplement lorsque vous serez à la maison, parce que je ne connais pas ma pensée. Je dois regarder ici dans ma concordance pour relever cela. Jésus a dit à Pierre, qui avait été à la fois sauvé et sanctifié, il crut en Jésus, fut sanctifié. En Jean 17:17, Jésus dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité, ta parole est la vérité. » Et lui et la parole sont la même chose. Ils furent sanctifiés potentiellement par la vérité, la parole, la vérité. Ensuite, Jésus dit à Judas ou à Pierre, la nuit de la trahison, il dit, « Après que tu seras converti, alors affermi tes frères. » Après que tu seras converti. L'homme l'avait suivi pendant 3 ans, et il avait son nom dans le livre de vie de l'agneau, et avait chassé des démons, fait de grandes œuvres, guéri, et avait fait toutes sortes de... avait prêché la parole, etc., et n'était toujours pas converti. Voyez-vous, vous marchez vers la conversion. Voyez-vous, le bébé que, au moment où l'acte se produit entre l'œuf et le sperme, ou le gène, mais lorsqu'il... potentiellement, le bébé est là, lorsque l'acte est terminé. Puis le corps se développe au second stage. Mais le bébé doit naître ici. Et alors, il reçoit le souffle de vie. Ce n'est pas encore le souffle de vie. Vous dites, « Oh, il est vivant !» Non, il ne l'est pas. Ce sont de petits nerfs qui remuent, des muscles, voyez-vous. Le bébé n'a pas reçu la vie tant qu'il n'est pas né. Et vous pouvez sauter, remuer, mais vous n'êtes pas... Voyez-vous, vous devez naître. Vous savez ce que je veux dire. Très bien. Maintenant, il a dit ensuite que cela prend... Vous avez mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie, et cependant nous savons qu'il est allé en enfer et qu'il fut perdu. Comment une personne alors peut-elle avoir son nom dans le livre de vie et cependant être perdue? Maintenant, laissez-moi apporter une petite chose de plus ici pour cette chère personne. Maintenant, remarquez, la Bible a dit, lorsque Daniel a vu, il a écrit le premier livre de l'Apocalypse, Daniel, et nous remarquons dans la vision, il l'a vu venir vers l'Ancien des Jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Combien se souviennent avoir lu cela?
Et avez-vous remarqué, Jean dans l'Apocalypse est venu à la même chose, Apocalypse 1, et se tenait là, ses cheveux étaient comme de la laine blanche, ses pieds, comme il apparaissait, l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de jour, il était l'éternel. Et il vint, maintenant regardez, et les saints vinrent sur la terre, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Lequel était le livre de vie, un livre. Ils vinrent au jugement, et le, il vint, et avec lui vinrent 10 000 myriades. Et juste, ils le servaient, l'épouse, la reine, et le roi. Qui est votre petite reine à la maison? Elle vous sert la nourriture, et juste, chose pour laquelle vous êtes en retard maintenant. Mais lorsqu'elle vous sert, c'est ce que l'époux sert Christ, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voyez-vous, elle sert la parole au roi, manifestant sa parole, promise dans l'âge dans lequel elle vit. Amen. Ah, j'ai dit quelque chose alors, vous n'avez pas compris, mais remarquez. Oh là là, c'en était une bonne, voyez-vous, dispensant dans l'âge la parole. Maintenant, remarquez, elle est venue, il est venu, et 10 000 myriades vinrent vers lui, et le jugement prit place, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Elles furent jugées ainsi. Qui est celle qui est venue? L'épouse, qui n'avait pas à venir au jugement. Elle est affranchie du jugement. Un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie, et ceux qui avaient leur nom dans le livre de vie devaient être jugés selon ce livre. Et Judas Iscariote affirmait être un croyant. Et il avait son nom écrit parmi ceux qui le sont dans le livre. Est-ce exact? Il prétendait avoir la vie éternelle, et son nom fut mis dans le livre de vie. Ainsi il doit, eh bien il doit être jugé alors pour voir pourquoi il condamna alors la parole de vie, la vendit pour 30 pièces d'argent. Certains la vendent pour être un méthodiste, un baptiste, ou quoi encore. Il bondit et retrancha sa position du livre de vie. Elle jugera, il devra être, devra se tenir là, être jugé par cela, par la parole. Voyez-vous, c'est pourquoi Judas devait le faire. Voyez-vous, Judas doit venir au jugement. Son nom était dans le livre de vie, mais cela ne signifie pas qu'il était sauvé. Il doit subir le jugement. Les vierges folles devront se tenir là sous les mêmes choses. Remarquez, Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire celui qui peut la recevoir. » Pas seulement l'entendre prêcher, s'en aller en disant, « Quelle blague, voyez-vous, celui qui reçoit ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit, qui ne fait pas semblant de croire, mais qui croit vraiment. » En celui qui m'a envoyé, lequel était la parole, a la vie éternelle, et ne viendra point en jugement, mais il est passé, temps passé, de la mort à la vie. Amen. Voyez-vous, c'est ça. Ainsi, Judas avait son nom là dans le livre de vie, c'est parfaitement exact. Mais il fut condamné, car qu'a-t-il fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Ésaü est né dans une famille avec la promesse de Dieu. Le fils aîné avait le droit d'aînesse. Combien ça cela? Par une promesse de Dieu, le nom d'Ésaü était dans le livre pour le droit d'aînesse. Est-ce juste? Mais il l'exurgea contre un plat de courge sauvage ou de pois. Il avait faim et désirait se remplir le ventre, avoir son bon de repas. Il l'exurgea son droit d'aînesse contre un bon de repas et ne put trouver le moyen de se repentir. Ces espions qui sont partis pour espionner le pays, ils arrivèrent, elles mangèrent même les grappes que Jésus et Caleb avaient rapportées. Et cependant, qu'ont-ils fait? Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Jésus a dit, ou Paul, parlant sous l'inspiration de Christ dans les Hébreux au 6e chapitre, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils étaient sanctifiés. Elles ont méprisé les œuvres de la grâce. C'est impossible pour cette personne de revenir. Tout cela, à part Jésus et Caleb, moururent et périrent dans le désert. Pourtant, ils étaient croyants. Pourtant, leur nom était dans les livres. Et ici, Paul dit que si un homme vient à être sauvé et sanctifié, le sang sanctifie, Hébreux 13, 12 et 13, dit que le sang sanctifie, puis qu'il monte jusqu'à la porte du baptême du Saint-Esprit.
et qu'à cause d'une question de prestige ou de la dénomination, il refuse d'entrer. Il dit, cette personne est perdue, elle ne pourra jamais être sauvée. Voyez-vous, parce qu'il a méprisé les œuvres mêmes de la grâce qu'il a appelé à cette position, et la lui a montré, puis il fait demi-tour et s'éloigne de cela. Il tient pour profane le sang de l'Alliance par lequel il était crucifié, Christ a été crucifié. Parce que le sang qu'il a sauvé, elle a justifié, elle a sanctifié, l'amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et alors il s'en éloigne, elle l'abandonne. Observez ce modèle, je prends beaucoup de temps, mais regardez, Judas Iscariote a suivi ces mêmes voies. Il fut justifié en croyant au Seigneur Jésus et en l'acceptant comme son sauveur personnel. Il fut sanctifié et il lui fut donné le pouvoir de chasser des esprits. Son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Mais lorsqu'il arriva à la Pentecôte et au baptême du Saint-Esprit, à la plénitude de la parole, il montra ses couleurs. C'est exactement ce que les espions de Canaan ont fait. C'est exactement ce qu'Ésaü a fait. C'est exactement ce que Satan a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Certainement que Dieu ne... Mais elle dit, Dieu a dit, il répondit, oui, je sais qu'il dit ceci, je sais qu'il a dit cela, mais certainement, voyez, la même chose s'est répétée tout au long de l'histoire, et il en est de même aujourd'hui. L'Église a passé par la justification Martin Luther, à travers la sanctification Wesley, mais lorsqu'elle arrive au baptême du Saint-Esprit, ils montrent leur couleur, ils ne veulent rien avoir à faire avec lui. Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Dieu, tous ceux-là qui croient dans la sanctification, vous ne pouvez pas toucher à cela, c'est la vérité. Mais lorsqu'on arrive à la frontière, lorsqu'on s'élève jusque-là pour recevoir le Saint-Esprit, pour la nouvelle naissance, alors que fait le diable? Il s'amène et c'est le temps de cela. Oh, il est, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder les gens loin de cela. Ils sont venus dire, vous devez parler en langue, vous devez avoir une sensation, vous devez faire ceci, vous devez être né dedans. Ne laissez personne vous dire que la sanctification et le Saint-Esprit sont la même chose, car ce ne l'est pas. Ça ne l'est certainement pas. Écoutez ce Nazaréen là-bas derrière, crier, ça ne l'est pas. Voyez-vous, il sait qu'il y a une différence en cela, car il y en a certainement une, frère Caps, notre brave frère, voyez-vous. Certainement, les Nazaréens, il n'y a personne qui peut dire un mot contre ces gens remarquables et religieux. Ils sont aussi gentils que possible. L'Église de Dieu, les Nazaréens, les méthodistes libres, ces gens sont sincères. Mais lorsqu'on arrive aux hommes de l'Esprit, ils disent, oh, c'est le diable. Et que font-ils à ce moment-là? Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Lorsqu'ils font cela, maintenant, qu'est-ce qu'un blasphème? Il n'y a pas de pardon. Et c'est exact. Celui qui a été une fois éclairé, qui a pris part et goûté au don céleste, qui a goûté à la sanctification de Dieu, étant purifié des cigarettes et des femmes impures et de tout ce genre de vie semblable, et qui a goûté aux choses célestes pour voir qu'ils montent jusqu'à la frontière comme ces espions l'ont fait, qui ont mangé une partie des raisins. Mais que doivent-ils faire? Ils ont dû se séparer de leur dénomination pour pénétrer jusque là-dedans, voyez-vous, qui ont goûté des dons célestes, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils étaient sanctifiés. La sanctification est lorsque votre nom entre dans le livre comme croyant. Votre nom est écrit dans son sang, voyez-vous, la sanctification fait cela. Et vous montez, lorsque vous avez fait confiance jusqu'ici, alors vous montez, vous dites, eh bien, serait-il cela? Oui, il savait cela, il savait depuis le commencement que vous ne le feriez pas. Il savait que Judas ne le ferait pas, il le connaissait depuis le commencement, c'était le fils de perdition. Mais ces choses doivent être accomplies, voyez-vous, la parole doit être accomplie, selon les types et les ordres, les ombres. Oh là là, nous pourrions nous étendre là-dessus pendant des heures. Frère Branham, lorsque j'ai donné le message sur les 70 semaines de l'Église, les 70 semaines, pardonnez-moi, de Daniel, je crois que vous avez mentionné que l'entière, la dernière semaine entière, les 7 dernières années, commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. Non, 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 non. Vous avez mal compris cela, voyez-vous. Non, pas les 7 semaines complètes. Là, la semaine a commencé lorsque Jésus est venu sur terre. Il a dit, le Messie, le Prince, viendra et prophétisera, et au milieu des 7 semaines, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, ce qui fait la moitié de 70 semaines, les 7 jours, semaines, les 7 jours de semaine. Et il reste 3 ans et demi. Maintenant, lorsque Moïse et Élie viendront sur la terre, ce qui est dans l'Apocalypse et dans Zacharie, frère Koumer, votre question et celle de sœur Koumer étaient dans la même. Maintenant, lorsque Zacharie 4 et Apocalypse 11, ces deux oliviers et ainsi de suite, qui sont Moïse et Élie, lorsqu'ils viennent sur terre, ils prophétisent 1264 jours. Qu'est-ce que c'est? Exactement 3 ans et demi. C'est exactement la même chose. Non pas, voyez-vous, quelle que soit cette chère personne, cela est très joli, écrit sur un papier avec une tête religieuse, etc. Et c'est très bien, c'est une très bonne question, mais voyez-vous, vous avez mal compris, vous n'avez pas compris exactement ce que j'ai dit. n'ai jamais cru que les 70 semaines entières seraient de ce côté-ci. Le Messie était retranché. Combien se souviennent de cela lorsque je l'ai prêché ici? Certainement, voyez-vous, 7 semaines. Depuis lors, il semble que les premiers 3 ans et demi furent accomplis durant le ministère. Eh bien, ici vous l'avez compris correctement, de Jésus. Mais l'expression « au milieu des semaines » semble être appliquée seulement à l'Antichrist qui brise son alliance avec le... Non, cet Antichrist brise son alliance à la fin des derniers 3 ans et demi. Voyez-vous, comme je l'ai compris sur la bande de Daniel, les premières 69 semaines se sont terminées lorsque Jésus monta à Jérusalem en l'an 30 de l'année du Seigneur. Ainsi, ces 3 ans et demi de son ministère seraient inclus dans les 69 semaines. Et les dernières semaines entières, et la dernière semaine entière, où les 7 ans seraient encore à être accomplis et commenceraient à l'enlèvement. Veuillez éclaircir ceci pour moi. Vous savez, frères, sœurs, qui que ce soit qui a posé cette question, c'est très bien, voyez-vous, mais je crois que vous êtes un peu embrouillés dans ce que j'ai dit, voyez-vous. Maintenant, lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, c'est parfaitement exact, c'était la fin de, voyez-vous, il partit directement de là et fut crucifié. Voyez-vous, elle prophétisa pendant la moitié des 70 semaines, ce qui fait 3 ans et demi. Maintenant, il fut retranché et son âme fut offerte en sacrifice. Et maintenant, il devait alors venir dans ces derniers jours, il y a 3 ans et demi qui sont encore promis aux Juifs. Et durant ce temps, il y a un rassemblement des saints pour l'enlèvement, l'Église. Maintenant, je ne vais pas arriver à toutes ces questions, frères et sœurs. Voudriez-vous expliquer, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 9 cherchez cela, frère Neville. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1, verset 1er. Bien. Et chaque vrai croyant fera-t-il ses œuvres dont Jésus parlait, comme mentionné dans Jean 14, 12? Pas exactement, non. Guérir les malades, chasser des démons, ressusciter les morts. Je ne pense pas que ce soit dans Jean 14, mais c'est en ordre. C'est Marc 16. Ou est-ce seulement pour Élie? Le croyant doit-il faire tout cela, ceci, réellement, qui croit réellement? Et s'il est réellement un vrai croyant, ressuscitera-t-il les morts et fera-t-il de grands miracles? Maintenant, cela se passe parmi les croyants. Voyez-vous, chaque homme ne possède pas ces dons-là. Et cela ne signifie pas qu'il n'y a qu'une personne qui fera ceci. Il y aura des groupes de personnes. Comme par exemple, qu'arriverait-il si nous avions une petite fille ici dans l'église, ou un petit garçon, ou quelqu'un que nous chérissons beaucoup, et que la vie s'en aille d'eux? L'église entière se rassemblerait. Elle se mettra à prier et à jeûner. Seigneur, aie pitié de cet enfant. Voyez-vous, Dieu pourrait le ressusciter. Combien ont déjà lu les pères de Nicée et les autres? Vous savez, c'est ainsi qu'ils faisaient dans l'église primitive. Ils se réunissaient tous, vous savez, et ils ressuscitaient même le pasteur parfois, et d'autres comme cela, si Dieu jugeait bon de le faire. Mais ils l'ont fait. Si l'église est sauvée, même si elle ne part pas dans l'enlèvement, comme je crois que vous avez enseigné, elle doit passer au travers de la tribulation pour être purifiée. Mais qu'en est-il au sujet de ceux qui sont morts? Comment seront-ils purifiés? Très bien. Ceux qui ont... L'épouse n'a pas besoin de purification. Elle est déjà purifiée. Et ceux qui sont morts là-bas, ceux qui traversent... Voyez-vous, ils n'ont jamais reçu la lumière que cette église ici a reçue. Ils ont vécu sur la justification, la sanctification, ainsi de suite. Ils ont vécu dans la lumière qu'ils ont eue. Peut-être que de la façon dont ils ont souffert et quoi que ce soit, par où ils sont passés et leur persécution. Mais maintenant, dans ce temps de l'enlèvement, comme ceci, voyez-vous, il devra venir un temps maintenant où cette épouse qui rejette la tête de l'épouse devra souffrir pour son refus. Parce que l'évangile n'était pas rendu clair pour eux dans le passé comme il est rendu clair pour vous aujourd'hui. Voyez-vous, vous le voyez si clairement. Vous avez eu toutes ces années, ces exemples, les sceaux qui ont été ouverts, les actes de l'Église qui ont été dévoilés et toutes choses pareillement. C'est tellement clair que vous ne pouvez pas le manquer, voyez-vous. Et alors, si vous le rejetez complètement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de souffrir pour cela. Avez-vous trouvé cela, frère Neville? De quoi s'agit-il? Je ferai mieux de m'en aller maintenant, parce que ça fait trop tard. Voyez-vous, 7, 9, voyons un peu. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Très bien, cela est pour une vie de souillure. Lorsqu'un homme ou un garçon ou une fille ou quelqu'un d'autre sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez-vous, ne continuez pas à vivre une vie impure à ce moment-là, car ce n'est pas juste, voyez-vous. C'est votre sœur dans un sens, si vous êtes un chrétien. Maintenant, si c'est le monde, c'est le monde. Il s'entre-dévore. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est votre sœur aussi. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne vivez pas une espèce de vie impure avec elle. Montrez-lui que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Vivez comme un gentleman chrétien doit le faire, voyez-vous. Et traitez-la comme votre sœur. Et lorsque vous serez marié, traitez-la toujours de cette façon-là. Je pourrais répondre ceci juste maintenant. Je ne crois pas à l'immoralité parmi les pentecôtistes, les gens de la sainteté, même s'ils sont mariés. Je ne crois pas en cela. Non, monsieur, certaines de ces choses obscènes, c'est si horrible. J'entre ici parfois dans ces, non pas ce matin, non, je ne dis pas cela. Mais je veux dire, parfois, lorsque je vais en Californie, et dans différents endroits comme cela, je rencontre des pasteurs là-bas où, sous le discernement, il me semble que je pourrais les tourner sur mes genoux et leur donner une petite stimulation évangélique du protoplasme. Oui, monsieur, oh là là, de voir un homme qui essayerait de prendre sa petite femme et de se souiller, c'est un... Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous devriez avoir honte de vous-même, comme homme de Dieu, pour... Soyez simplement un mari, soyez un chéri, respectez-la comme vous la respectez toujours. Ne faites pas attention à ces absurdités dans ces livres de sexe, et aux choses que vous lisez, et à tout ce fatras. Faites sortir ces choses corrompues de votre esprit. La Bible a dit qu'il n'y a aucun propos impur parmi vous lorsque vous professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. S'il a 60 ans, soyez toujours le même. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous que vous l'êtes. N'essayez aucune de ces nouvelles choses, et je sais de quoi je parle. Soyez simplement un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, mais vous êtes mes enfants. À vous, j'ai le droit de dire ce que je veux, voyez-vous. Vous êtes mes enfants, vivez correctement. Et vous, femmes, vivez de la manière correcte vis-à-vis de vos maris. Et vous, maris, vivez de la façon, de manière correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils et respectez-vous les uns les autres simplement avec eux. Et pour vos relations familiales et ainsi de suite, que cela soit empreint de tout le respect et la sainteté possible et convenu entre vous. Ne poussez jamais, ne bousculez jamais, ne soyez pas grossiers et vulgaires. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et elle une autre, parlez-en avec elle. Essayez de faire la même chose pour lui, sœur. Et de même, comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un envers l'autre. Souvenez-vous toujours que vous êtes les enfants de Dieu et que vous venez d'une famille royale. Vous êtes le sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. Et c'est juste. Et le sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est, un sang royal. Que tous ceux qui croient cela disent Amen.
Amen.
Oui, monsieur, montrez ce que vous êtes. Je suis un fils de roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est la fille d'un roi. Comment traiterai-je cette fille de roi? Comment traiterait-elle ce fils de roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique.
Amen.
Y aura-t-il un mouvement du Saint-Esprit, des signes et des prodiges et des miracles accomplis par l'épouse avant qu'elle s'en aille? Ou attendons-nous simplement son apparition? Je vais devoir terminer avec celle-ci, je pense, parce qu'il y en a tout simplement trop ici pour y arriver, et il se fait très tard. Il est 1h20, et j'en ai peut-être ici 30 ou 40. Je répondrai à ceci au mieux du temps dont je dispose. Je prendrai juste les 3 prochaines minutes. Je prendrai celle-ci lorsque je pourrai, voyez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai les prendre. Je ferai du mieux que je peux. Les avez-vous appréciés? Cela m'aide aussi, voyez-vous. En venant ici et en les prenant comme ceci, avant même de pouvoir regarder ce que c'est, voyez-vous. Vous avez des choses auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Et j'espérais tomber sur... Je sais qu'il y en a une là-dedans au sujet de la semence du serpent. Je désire tellement y arriver. Je voulais l'expliquer, voyez-vous. Mais je pense que je l'ai tout simplement manqué. Ainsi, je devrais juste... Peut-être que le Seigneur ne veut pas que cela soit fait de cette façon-là. Mais c'était sur la semence du serpent. À moins que quelqu'un sur la bande aille dire, eh bien, il a laissé cela de côté. Combien veut le supporter 2 minutes de plus pour cela, hein? Très bien. Maintenant, attendez, laissez-moi voir celle-ci premièrement. Voyons un peu. Est-ce que, non, cette question est celle-ci. Y aura-t-il des miracles accomplis par l'épouse? Oui, monsieur, cela s'accomplit en ce moment même. C'est juste, voyez-vous. Mais n'attendez pas quelque chose de grand comme cela, ou qui ouvre le ciel et qui ferme le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Cela concerne les Juifs, voyez-vous. Cela ne concerne pas ceci du tout. C'est Moïse Élie pour les Juifs, non pas pour cette Église. Lisez les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Là même, vous verrez ce qu'est l'Église. C'est tout pour l'Église. Et lorsqu'elle revient avec l'épouse, lorsqu'elle revient, lisez. Si vous voulez savoir au sujet de l'Église, ce qui la concerne, lisez les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Puis rendez-vous au 19e chapitre et commencez à lire depuis là. Vous avez l'épouse. Le reste de cela concerne les Juifs là-bas. Maintenant, pour la semence du serpent, je ne peux la retrouver là-dedans. Pour la simple raison, voyez-vous, qu'il y en a une grosse pile. Mais la personne a dit, si le serpent, si la semence du serpent, voyez-vous, la femme, elle a acquis un fils avec l'Éternel. C'est ce qu'elle a dit.
Eh bien, je crois que dimanche dernier, j'ai expliqué comment elle reçut ça du Seigneur. Elle a reçu du Seigneur, voyez-vous, parce que cela devait venir du Seigneur, parce que la loi de Dieu obéira à Dieu, exactement. Il a ordonné que le soleil brillerait, le soleil brille. Il ordonne que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, cela se produit. Et les autres semences plantées dans n'importe quel champ, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles pousseront. C'est une semence. Et si la semence est plantée, peu importe. Et la seule façon pour laquelle ce serpent pourra planter sa semence, c'est qu'il était le seul animal qui était proche de l'être humain. Car dans l'évolution de la race humaine, lorsque Dieu couva la terre, il commença à faire apparaître des oiseaux. Et des oiseaux, il passa à différentes choses, puis au chimpanzé, et du chimpanzé au serpent. Maintenant, il changera ce serpent de telle manière, cela devait être fait, que cela embrouillerait cette génération qui essaie de trouver un os qui ressemble à une espèce d'animal, qui soit moitié homme, moitié animal, pour dire que c'est là où l'homme, ils ont perdu la trace à partir du chimpanzé. Seulement, le chimpanzé n'a pas d'intelligence. Le chimpanzé n'a pas d'âme. Il ne peut pas penser. Il a simplement, il peut, juste un bruit, il peut, un cheval l'ont dit, dia, ou quelque chose comme cela, un chien, viens ici, Fido, fais-moi un tour, saute. Placer des plans et des choses comme cela. Ils font cela par émotion, en écoutant. Ils font des choses et des actions comme cela. Mais penser, comprendre, ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont nus. Ils ne connaissent pas la différence entre le mâle et la femelle. Ils n'ont aucune loi semblable. Ils ne peuvent pas faire cela. L'être humain, le seul qui le puisse. Et celui qui venait après l'être humain était le serpent. La Bible a dit qu'il était le plus rusé, qu'il était la plus rusée de toutes les bêtes des champs, la plus habile. Il possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Mais qu'a-t-il fait? Il se vendit à Satan pour tromper Dieu. Il essayait de le tromper. Combien comprennent cela jusque-là? Satan, le serpent, avait presque une âme. Dieu savait qu'il chercherait ses os. Et il n'y a pas un os dans un serpent qui ressemble à l'homme. C'est la malédiction de celui-ci. Il se tenait sur ses pieds exactement comme un homme. Remarquez alors cette semence qui était proche de la semence humaine. Satan lui-même, l'esprit savait que c'était la seule semence qui rendrait la femme enceinte. Car celle du chimpanzé ne fera pas cela. Ils ont mélangé cela, fait toutes sortes de choses, cela ne marche pas. Ils savaient que le germe de vie qui était dans le chimpanzé ne viendrait pas dans le champ d'ensemencement de la femme, l'œuf. Mais ils savaient que la semence du serpent ferait cela. Ainsi, ils traitaient avec le serpent. Et Adam n'avait jamais su que cet acte pouvait se faire, voyez-vous. Elle fut créée femelle, certainement, elle serait venue à cela plus tard. Mais vous voyez, c'était dans la souveraineté de Dieu de se manifester comme sauveur, et ainsi de suite, comme je l'ai souvent expliqué. Mais Satan savait ceci, parce qu'il est venu vers elle sous la forme de ce serpent, qui était la bête et une bête. Et il est venu vers elle, et elle se trouva d'abord enceinte de Satan. Et si vous remarquez, il y eut seulement deux actes d'accomplis, et trois enfants naquirent. Sonde l'Écriture, elle donna naissance à des jumeaux. L'un d'entre eux était la semence du serpent, l'autre était Abel. Elle séduisit son mari et lui raconta, voyez-vous. Alors, elle montra à son mari ce que c'était, puis il vécut aussi avec elle, et elle porta cet enfant. Et je veux vous montrer qu'elle fut enceinte de jumeaux par deux différents. Elle était une femme vierge, leur postérité est robuste. Comme, regardez un peu, Abraham se maria avec sa propre sœur. Eh bien, si un homme se maria avec sa sœur aujourd'hui, ses enfants seraient des idiots. Voyez-vous, mais l'humain, et prenez Jacob, ou Isaac, il se maria avec Rebecca, qui était sa propre cousine de sang, sa parente par le sang, voyez-vous, l'enfant du frère d'Abraham. Maintenant remarquez, là-dessus, voyez-vous, il y a, la race humaine est très robuste. Maintenant, si vous remarquez cela, a toujours été des jumeaux tout le long. Il y avait, Caïn et Abel étaient jumeaux, et Ésaü et Jacob étaient jumeaux. Jésus et Judas venaient de la même tribu et de la même église. Et même le Saint-Esprit et l'Antichrist doivent être des jumeaux, si près que cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. L'avez-vous compris? Très bien. Maintenant, pour prouver ceci, je désire que vous preniez Jude, le 17e verset, ou le 14e verset de Jude, qui dit, maintenant remarquez ceci, maintenant je vais terminer, remarquez, pour trancher toute l'affaire, et que ce soit en ordre, pour commencer, il dit, je mettrai inimitié en ta semence et la semence du serpent, voyez-vous. Maintenant, elle n'a pas de semence. Donc, comment reçut-elle cette semence? C'était la semence de Satan. Caïn était le fils de Satan. Elle n'avait pas de semence. Ainsi, elle l'a reçue par relation sexuelle. Et lorsqu'elle fit cela, cela lui fut donné par l'ennemi de Dieu.
Et par la suite, lorsque Dieu lui donna une semence, il ne fut pas du tout question de sexe là-dedans. Comprenez-vous? La femme esclave et son enfant furent chassés, car ils n'avaient trop pas avec la femme libre et son enfant. Et remarquez, ensuite il lui fut donné une semence, qui fut Christ. Ce n'était ni son ovule, maintenant les protestants veulent croire que c'était l'hémoglobine issue d'une vierge, c'était le sang créé de Dieu, là où le germe reposa, mais ils ont dit que c'était son ovule. Non, monsieur, cet ovule ne pouvait pas se frayer un chemin au travers de ce tube, juste dans le ventre, à moins qu'il y ait une sensation. Alors vous dites que Dieu est esprit et qu'il a une sensation, une relation sexuelle avec une femme. Comment cela pourrait-il se faire? Ce fut une chose entièrement créée par Dieu, à la fois l'ovule et le germe. Et il était le fils de Dieu, non pas le fils de Marie, parce qu'il ne l'a jamais appelé mère. Femme l'appela-t-il jamais mère? Elle n'était pas sa mère. Il était le fils de Dieu, et Dieu est un. Le saisissez-vous? Maintenant, une autre chose pour le prouver, l'enfoncer jusqu'au bout. Si jamais quelqu'un vous contredit, retournez ici dans le livre de Jude. Je pense que c'est le 17e verset, le 14e ou le 17e verset. Il a dit, maintenant, Enoch, vous désirez que je lise? Avez-vous assez de temps pour cela? Lisons-le, et alors je serai, parce que la bande ici se déroule, et se peut que nous soyons embrouillés à propos de ceci maintenant. Laissez-moi voir si ceci est un 14e verset. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Maintenant, revenez au cinquième chapitre, je pense que c'est ça, de la Genèse, puis passez aussi au livre de Luc. Je souhaiterais pouvoir le trouver. Je l'ai tout inscrit ici, si vous pouvez le trouver là-dedans. Et vous découvrirez que dans les généalogies, nulle part dans la Bible, regardez, si Noé, si Enoch est le 7e depuis Adam, la Bible dit Adam, puis son fils Seth. Parce que Caïn n'était pas la semence d'Adam. Il est dit qu'Adam engendra Seth, et que Seth engendra Jéred, Jéred engendra tout en descendant jusqu'à Enoch. Et Enoch était le 7e depuis Adam. Nulle part il n'est dit que Caïn soit considéré pour quelque chose dans les généalogies de Dieu. Maintenant, regardez simplement et découvrez si c'est ainsi ou non. Sondez cela. Et Luc intervient, elle le mentionne de nouveau en descendant depuis Adam. Pas une seule fois Caïn n'est mentionné dans toute l'affaire. Et si Enoch, voyez-vous, était le 7e depuis Adam, aucun est-il entré, parce que la Bible a dit ceci dans les généalogies, qu'Adam engendra son fils Seth, et Seth engendra Jéred, et Jéred engendra un tel en descendant, et Caïn ne fut pas même mentionné une fois, donc il ne pouvait pas être le fils d'Adam. Ainsi, il dut être le fils du serpent, et ne pouvait pas être un fils sans qu'il y eût de rapport sexuel. Amen. Sinon, il serait né d'une vierge, alors il serait un fils de Dieu. Je ne veux pas qu'il manque cela une seule fois. Maintenant, le même Dieu qui a révélé cela est le même Dieu qui m'a parlé au sujet de votre mariage et divorce. Lorsqu'il dit ces choses-là, mon frère, ma sœur, je suis votre frère, un homme. Mais lorsqu'il dit cela et que cela touche ici à l'intérieur, je ne peux pas vous l'expliquer. Il est inutile que j'essaie de le faire, car je ne le pourrais pas. Mais cela n'a jamais été faux une seule fois. Bien que je ne pouvais pas du tout le voir moi-même, je ne pouvais pas le voir, mais je me cramponne simplement à cela, et ensuite il commence à me le révéler, et cela me laisse simplement pantois. C'était précisément là, et je ne l'avais pas vu. Cela laisse de côté votre éducation et votre raisonnement, et tout le reste. Ainsi Caïn fut laissé de côté. Maintenant, si nous avions le temps de retourner ici dans la Genèse, et de commencer à lire, voyons un peu si je pouvais juste trouver cela et le prendre. Je ne sais pas d'une manière certaine si je pourrais ou non. Madame Wood, vous souvenez-vous lorsque j'étais en train de vous montrer cela l'autre jour? Juste que... Était-ce le 5e chapitre? Le 5e, bon, très bien. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit. Et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom... Caïn? Comment l'a-t-il appelé? Où est ce premier-né qui avait alors le droit d'aînesse? Il n'est même jamais mentionné. Seth était son fils. Maintenant, nous arrivons ici, à nouveau. Et nous trouvons où il est dit, « Et maintenant, Ève reçut un fils, parce que Caïn tua Abel. » Maintenant, remarquez, alors que nous continuons, « Et Adam vécut 130 ans. Il vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom Seth. » Et les jours d'Adam, après qu'il engendré Seth, furent 800 ans. Elle engendra des fils et des filles, et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, et il mourut. Et Seth vécut 105 ans, et engendra Enoch, et ainsi de suite tout en descendant, et il est le septième, Enoch est le septième depuis Adam. Maintenant, je ne me souviens pas exactement où dans Luc, avez-vous cela d'inscrit aussi, Madame Wood? Elle et moi, je vais montrer ça l'autre jour dans... Que dites-vous? Je crois que vous avez raison, Sir Wood. Nous l'avons inscrit là, dans son livre, où nous nous trouvions, sa Bible, là où j'étais en train de lui montrer. Le voici, oui, les généalogies. Très bien. Maintenant, si nous faisons attention ici, dans le troisième chapitre de Luc, nous avons la même chose. Fils de, et ainsi de suite, et Noé, qui était de Lamech, aussi fils de Methusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Aucun est-il entré. Où est Caïn, le premier-né? Le droit d'Enès lui appartient. D'où viendrait-il? Il était la semence de Satan, et non celle de Dieu. Il n'était pas le fils d'Adam non plus, car le nom du fils d'Adam était Seth. Caïn, la semence du serpent, tua son premier fils, ce qui est un type et un nombre du serpent qui a aussi tué son autre fils, Jésus. Et Seth prit sa place dans les généalogies, ce qui signifie la résurrection. Les généalogies de Dieu se poursuivraient complètement. Je voudrais bien voir quelqu'un le placer là-dedans maintenant et dire que ce n'était pas la semence du serpent. Cela n'a pas été reconnu dans les généalogies de Dieu, ni dans les généalogies de la race humaine, les généalogies d'Adam, dans aucune des autres. Est-ce exact? Combien croient cela? Dites Amen. Amen. Certainement, il ne l'était pas. Il était la semence du serpent et non pas la semence d'Adam. Elle dit que c'était un fils d'Adam. Ce n'était pas un fils d'Adam. Elle dit, je l'ai reçu de Dieu. Il le fallait. C'était une semence. C'était une semence. Mais c'était la semence du serpent, voyez-vous. Il devait donc revenir dans une vierge afin de rectifier cet acte sexuel qui avait été fait. Adam fut mis ici sur la terre, mais il n'avait jamais découvert qu'il devait être un père. Vous comprenez ce que je veux dire? Satan connaissant ceci, il va des rêves avant qu'Adam n'arrive là. Et c'est sur cela que repose l'affaire entière aujourd'hui. Et frère, c'est ce qui fait de mariage et divorce et de tout le reste un tel méli-mélo aujourd'hui. C'est vraiment triste, voyez-vous. Mais Dieu a ouvert un chemin, ce dont nous sommes reconnaissants. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Maintenant, est-ce que la semence du serpent est exacte? Je pensais que peut-être d'après la bande, quelqu'un pourrait penser que j'avais peur de m'attaquer à cela. Voyez-vous, ainsi il dirait, eh bien, il a passé par-dessus cela deux fois, il a simplement peur de s'emparer du sujet. N'avons pas peur de cela, du moment que le Seigneur est là-dedans, tout va bien. Vous savez, c'est comme cet aigle dont j'ai parlé l'autre fois. J'observais comment il sortait ses ailes, vous savez, et je pensais, n'as-tu pas peur de moi? J'avais mon fusil posé là-bas, je dis, je pourrais te tirer. Il savait que je ne pourrais pas le faire. J'étais trop loin de ce fusil, je dis, as-tu peur? Il ouvrit simplement grand ses gros yeux et me regarda. Un petit Tamia qui se trouvait là se mit à crier, « Tcha, 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 je vais te mettre en pièce, je vais t'en mettre en pièce !» Il ne prêtait pas attention à ce Tamia, mais il se fatigua de l'entendre. Ainsi, après quelques instants, il fit juste un seul grand bond, parti comme cela, et déploya simplement ses ailes. Il savait comment manœuvrer ses ailes. Il s'envola, puis disparut. Voyez-vous, et je l'ai vu devenir juste une petite chose comme cela, juste un petit point. Frère Fred, je crois que je voulais montrer. J'ai aperçu frère Fred là-bas derrière maintenant que tu l'as crié « Amen » tout à l'heure. Je crois que je vous ai montré cet endroit là-haut. Et frère Wood, où que vous soyez là-bas, dans les montagnes là-haut, là où c'est arrivé. J'ai vu cet aigle. Il avait été forcé de descendre de cette tempête et j'étais debout derrière cet arbre. Je chassais l'élan et un peu plus tard, et c'était en octobre. Il y avait de la neige, etc. Ce frère ici était là-bas l'automne dernier avec nous, frère John et cela, juste sur le sommet de Coral Peak. C'est là où ça se passait. J'étais là debout, et j'étais debout derrière cet arbre. Il neigeait un peu, et il pleuvait un peu, et je me tenais simplement là. L'aigle était là, il fut forcé de descendre. Il alla se percher là-bas dessus. C'était un grand et gros animal, qui avait l'air d'un monstre, un gros aigle brun. Il se posa là-haut et regarda autour de lui. Je pensais bien. Vraiment, je passais un bon moment. Je criais, gloire à Dieu, alléluia. Je tournais autour du buisson et je tournais en criant comme cela. J'ai regardé là en bas. Je pouvais entendre ce vieux coyote crier. Vous savez comme ils font lorsqu'ils se mettent à crier. L'an dernier, juste avant qu'il commence à pleuvoir, ils avaient commencé à crier. C'était un petit loup, vous savez. J'aime tout simplement les entendre. Puis je pouvais entendre l'élan de l'autre côté par ici qui faisait « Ouiou !» Et loin de ce côté-ci, son compagnon lui répondait « La semaine prochaine, la semaine après celle-ci, je serai à la chasse à l'élan, Dieu voulant. Ainsi donc, d'entendre cela là-bas, oh, c'est tellement divin d'être là-haut. Oh, c'est ma cathédrale là-haut, où je lui parle. Ensuite, je descends ici pour vous parler, voyez-vous. Et là-haut, oh, c'est si merveilleux, cela nous détend. » En me tenant simplement là, je pensais, oh Dieu, je regardais, puis la pluie descendit, et les sapins étaient couverts de gelée blanche, et un arc-en-ciel s'étendit depuis Coral Peak jusqu'à Sheep Mountain par là, de ce côté-là. Et je pensais, oh Dieu, regarde par là, oh, je pensais, te voici, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ici cela descend, et ici, là, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, les sept âges de l'église, les sept chandeliers d'or, te voilà, oh Dieu, comme tu es merveilleux. Et je ne faisais que crier, je déposais mon fusil par terre, et je fis le tour de l'arbre en criant, gloire à Dieu, loué soit Seigneur, en tournant autour de l'arbre comme cela. J'avais simplement du bon temps là-haut, seul avec le Seigneur, vous savez. Et après un moment, cet aigle monta au-dessus de ce taillis, et me regarda simplement. Je pensais, eh bien, tu n'aimes pas cela? J'ai dit, mon vieux, j'adore le même Dieu qui t'a créé. Voyez-vous, il clignait simplement ses grands yeux gris et regardait vers moi, et moi qui criais comme cela. Et un petit écureuil, n'importe quel homme qui a déjà passé dans les montagnes sait que c'est le policier des bois. Elle sauta par là, un petit animal, pas assez gros pour faire quoi que ce soit, mais oh, quel bruit! Elle sauta par là, sautilla de haut en bas, vous savez, ya, continuons simplement comme cela. Et cet aigle le surveillait, il me regarda, je pensais, « Oh Seigneur, eh bien, pourquoi m'arrêterais-tu sur une chose pareille ? Voyez-vous, j'ai dit, parce que tu sais que je t'adorais. Désires-tu que j'observe quelque chose sur cet aigle ? J'ai dit, je l'étudierai. Où veux-tu que j'observe l'écureuil du pain ? Je me tins là debout et les observais. Je pensais, je vais l'étudier juste un peu. J'ai dit, une chose que j'ai remarquée chez lui, il n'avait pas peur. J'aime cela, il n'avait pas peur. Il s'est tenu là, ce très grand oiseau. J'ai dit, tu sais quoi? Mon fusil était posé contre un arbre. Je dis, tu sais, je pourrais te tirer. Il savait mieux que cela. Il savait une chose que je ne le ferais pas. Je l'admirais trop, voyez-vous. Il se tenait là. Elle n'était pas du tout effrayée. Et je pensais, je pourrais te tirer. Maintenant, je le voyais. Il me regardait comme cela. Elle continua, vous savez, à faire remuer ses ailes contre lui. Vous savez comment elles font avec leurs ailes. De très grandes ailes, à peu près comme sa longue, vous savez. C'était un gros animal. Il était là, et je le regardais. C'était bien avant que je connaisse ces choses. C'était il y a des années, il y a peut-être 20 ans. Et je l'observais. Après un moment, je le vis. Je pensais, qu'est-ce qu'il... Il n'a pas peur, ainsi j'admire cela. Mais qu'est-ce qui est si divin dans ce vieil aigle? Voyant ce grand et gros bec rochu sortir comme cela, et ses grands yeux, je pensais, eh bien, ça c'est un vrai oiseau. Maintenant, personne, en faucon, s'il essayait de le suivre, il se désintégrerait. Il n'y a rien qui puisse le suivre. Non, non, il faudra un avion pour le suivre. Oui, monsieur, aucun oiseau ne peut le suivre, car il vole si haut. Puis il a de ses yeux, il peut voir jusqu'en bas sur le sol aussi, une fois qu'il est là-haut, il voit très loin. Maintenant, Jéhovah a comparé ses prophètes aux aigles, voyez-vous, il les a élevés comme cela. Ils devaient être faits de façon spéciale. Voyons un peu, prédestinés, nés dans ce but, voyez-vous, pour être élevés comme cela. Alors vous, quel bien cela vous fait d'aller là-haut, si vous ne pouvez pas voir où vous vous trouvez, voyez-vous? À quoi sert de vous rendre là-haut, si vous ne savez pas ce que vous faites, voyez-vous? À quoi sert de sautiller de haut en bas, de crier, de parler en langue, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, voyez-vous? Voyez-vous? Vous allez le comprendre tandis que vous êtes là, voyez-vous? Ainsi donc, je l'observais, vous savez, tandis qu'il se déplaçait par là. Je continuais, je ne faisais que l'admirer. C'était un si bel oiseau, et cependant, il mangerait probablement de ma viande de cerf, et des choses que je surveillais, et après quoi je pensais, tu sais que fait-il? Au bout d'un certain temps, il se fatigua. Je ne pense pas qu'il se fatigua de me regarder, mais je pense qu'il se fatigua d'écouter ce vieux petit Tania qui se trouvait là. Vous savez, nous en avons tant aujourd'hui dans le camp. Vous savez, voyez-vous, les jours du miracle sont passés, la guérison divine n'existe pas, nous n'avons plus ces choses, voyez-vous. Un vieux Tania terre à terre qui se trouve là sur cette souche. Vous devez appartenir à ceci, nous sommes les... Voyez-vous, assis là, papotant sans cesse, oh, il vibrait, il tremblait tellement. Il se fatigua d'entendre cela. Elle fait juste un grand bond et fit simplement trembler cette branche sur laquelle il se trouvait comme cela. La branche trembla comme cela et il partit tout droit. Voyez-vous, il battit des ailes et se fraya simplement un chemin à travers cette futaie. Et lorsqu'il le fit, je l'observais, voyez-vous, il n'avait pas peur, parce qu'il pouvait sentir la présence de ses ailes que Dieu lui avait données. Il savait que ses ailes pouvaient le transporter loin de tout danger, voyez-vous, et ainsi, c'est ainsi que nous désirons nous sentir. Ceci est la parole, et celui qui a écrit la parole est mes ailes. Je n'ai pas peur de la parole, elle vous fera passer au travers de n'importe quel trouble qui soit. C'est une épée qui se fraiera un chemin tout droit, ne vous inquiétez jamais de cela, voyez-vous, maintenant j'ai remarqué alors. Il n'a pas battu des ailes, il a simplement déployé ses ailes, voyez-vous. Et cela, chaque fois que le vent entrait, il s'élevait simplement et montait de plus en plus haut. Je me suis tenu là et me suis croisé les bras et les regardé jusqu'à ce qu'il soit un petit point que je ne pouvais presque plus voir. Et je pensais, « Oh Dieu, c'est ainsi. Ce n'est pas de courir, se joindre à ceci, et de courir, se joindre à cela, de faire ceci ou cela, c'est simplement d'étendre ses ailes, voyez-vous. Savoir comment étendre vos ailes de foi dans la parole de Dieu. » Et vous éloignez de toute cette absurdité de papotage ici et de papotage par là. Oui, les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Maintenant, je dois encore voir environ une vingtaine d'entre vous cet après-midi. Maintenant, vous qui passez en entrevue pour cet après-midi, eh bien, voyez Billy, parce que je pense qu'ils vont essayer de commencer juste un peu plus tôt pour que j'arrive à les avoir toutes. Si je peux, je désire prendre chacune d'entre elles, si c'est possible. Et j'ai fait ceci, non pas parce que Billy ne savait pas ceci, voyez-vous, mais mon esprit était si tendu après environ 20 visions là-dedans ce matin, voyez-vous, jusqu'à ce que, ou quoi que ce fût, cela vous met juste en quelque sorte dans une... Et Billy a dit, pourquoi ne sors-tu pas prendre un peu, te détendre, sortir et répondre à certaines de ces questions-là. Et j'ai dit, Frère Neville a son message, il dit, je vais aller lui dire. Il partit, Frère Neville a dit, allons, venez. Ainsi donc, je me suis levé, je suis venu ici. Et certains d'entre vous attendent pour cet après-midi. Je m'excuse de vous avoir gardé ici jusqu'à une heure, mais je pense que je vais partir après-demain, ainsi, pour retourner de nouveau en Arizona. Souvenez-vous, Dieu voulant, la prochaine fois que je reviendrai, je désire prêcher, je désire vous montrer au sujet, de vous montrer dans l'Écriture ce qu'il en est exactement sur le mariage et le divorce. Ceci, et alors je puis laisser cela simplement, l'exposer simplement comme ça l'est en réalité, puis vous le verrez à partir de ce moment-là. Ainsi, jusqu'à ce moment-là, soyez courageux, que le Seigneur vous bénisse richement. Pouvons-nous nous lever ? Gloire à Dieu.
Oui, je l'aime. Oui, je l'aime.
L'aimez-vous ? Parce qu'il m'est malheur.